Boum! Super émission. Aujourd'hui, on retrouve Alexis Poulain. Ça fait trop plaisir de te retrouver. Bienvenue sur le plateau Susbox. Cette fois, alors, pas en chair et en os, mais ça va aussi. Avant de mettre les mains dans le cambouis ou les bottes dans le fumier, hein, selon le métier, et de revenir sur le chaos français actuel, je voulais un petit peu revenir sur ta vie personnelle. Alors pas de manière voyeuriste, hein, je te rassure, mais juste pour comprendre un peu le chemin de l'homme, le chemin du journaliste ou du commentateur analyste politique français que tu es devenu. Par exemple, est-ce que tu as toujours été politisé? Ça, c'est quelque chose qui était peut-être déjà dans ta famille, ou comment t'en es arrivé là, entre guillemets?
Une fois que tu te rends compte qu'il y a quand même une clé de lecture politique sur tout, à peu près tout, et que ton cerveau est un terrain de jeu et un terrain que
Attends, j'ai
tu veux.
l'impression qu'il n'y a pas de son. En tout cas, il y a tout le monde qui, il y a tout le monde qui
Ah.
gueule. Alors, je ne sais pas s'ils entendent moi et pas toi.
Moi, je t'entends.
Est-ce que
Alors,
vous
attends,
entendez
qu'est-ce
Alexis
qui.
Poulain, chers amis? C'est bon, ok, c'est bien. Ok, tu peux reprendre. On t'entend, c'est bon. Ah, ok. Bon,
Ben,
alors Alexis,
bon.
je suis désolé.
Donc, je sais pas quand est-ce que ça a
À mon
coupé.
avis, ça avait jamais pris. Il y a un truc qui
Ouais,
avait
mais
dû.
c'est moi, c'est j'ai l'âge commun avec le son, c'est son, ok.
Ok,
Non, allez,
alors je
bon,
pense
ben, go
qu'on
après.
peut peut-être reprendre. On va répéter un peu, mais ce qui est intéressant, c'est aussi parce que les Suisses te connaissent moins. Hein. Là, je vois qu'il y a plein de gens qui te suivent. Mais ma première question, c'était de savoir un petit peu le parcours que tu avais eu, si effectivement tu t'étais politisé tôt dans ta vie. Tu as dit que ton père, effectivement, avait déjà un regard politique. De savoir un peu comment, en gros, tu es devenu le commentateur ou l'analyste politique, selon moi, important. Enfin, en tout cas, tu es mon préféré, mais aussi parce que tu as un ton comme ça très humain, et puis tu essayes de mettre de l'humour, tu es hyper persévérant, tu vas dans les détails, tu as une analyse assez fine. Et ben voilà, je me demandais comment on peut arriver à ça, quoi, en fait.
Là où c'était loin de moi d'abord, après je m'y suis de plus en plus intéressé. Et c'est vrai que là, bah après j'ai fait des études aussi de sciences politiques, donc j'ai toujours été intéressé par les idées politiques, la question politique. Et puis parce que moi je mets de l'humour parce que ça devient quand même catastrophique. Depuis qu'on a arrêté les guignols de l'info en France, on a l'impression que ça y est, les guignols, ils se sont incarnés dans des personnes humaines qui sont devenues des caricatures d'elles-mêmes, qui sont en train de donner un spectacle parfois drôle, parfois tragique, souvent moisi, qu'on suit avec forcément du recul, mais en étant conscient que derrière, je parlais du cerveau, qui est le territoire qu'il faut aller capter, hein, comme les marques, comme tout. On voit bien que la politique cherche à exister par la propagande. Et aujourd'hui, je trouve ça particulièrement caricatural, et la censure qui s'est mise en place sur les libres penseurs, et la propagande qui est devenue la norme, finalement, pour dire il faut penser comme ça. J'en parle souvent, mais on est déjà dans les prémices d'une société du crédit social, parce que si vous pensez différemment de ce que doit être la pensée bienséante, officielle, vous êtes déjà un peu mis au banc, vous êtes déjà un intouchable. Je l'ai vu, hein, tout simplement pour avoir travaillé pour RT France. Travailler pour les Russes, ça fait de moi un intouchable, alors qu'on n'est pas en guerre contre la Russie. Macron le répète, hein, il aimerait bien. Il faut trouver les arguties pour faire en sorte que. Et donc, il y a cette débilité-là. Beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre ce qui est à la manœuvre aujourd'hui au niveau international sur la redistribution des cartes, du pouvoir, les guerres du pétrole qui passent aux guerres du gaz, qui vont passer aux guerres de l'intelligence artificielle. Les grands ensembles en fait sont en train de se redéfinir avec une perte de vitesse de Washington évidente qui fait qu'il y a une accélération, une contraction du temps historique pour aller chercher quelles vont être les zones de déstabilisation possibles. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas des gentils et des méchants. Tout le monde est gentil et méchant en même temps. faut pas croire que tout est noir ou tout est blanc. La société iranienne, c'est pas les mollahs iraniens. La société russe, c'est pas Vladimir Poutine. La société américaine, c'est pas Joe Biden. Enfin voilà. Et puis la société française, c'est loin d'être Macron. Donc c'est caricature. Et le fait que trop de gens se désintéressent à la complexité font qu'on arrive à des gens qui sont devenus des idiots, mais des idiots gavés de propagande qui ne savent même plus pourquoi. Et un jour, ils vont agiter un drapeau, et puis ensuite, ils vont agiter une peur parce qu'on leur a dit d'avoir peur, et puis ensuite, ils vont voter ce qu'on leur a dit de voter. Et cette masse-là, elle est terrible parce que c'est le terrain de jeu, en fait, des cyniques qui font de la politique. Ils savent très bien qu'ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent, même si ça commence à craquer de partout. Voilà, il faut vraiment arriver à dépasser ça. Et on voit bien que nous, avec nos médias indépendants et alternatifs, on est loin d'avoir une audience de taille critique qui permettrait une ouverture du débat, une réflexion différente, en fait, sur la blague qu'on nous propose au quotidien. Et c'est ça qui empêche aussi, je pense, les initiatives citoyennes, le fait de ne pas avoir accès aux médias, que le jeu médiatique soit verrouillé, le fait que peu de gens s'intéressent de manière sérieuse à la politique, et que les robinets à propagande ont encore beaucoup d'audience, énormément d'audience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les milliardaires s'y intéressent. Eux ont les moyens d'acheter du cerveau en achetant ces robinets à propagande que sont les médias.
Ben, t'inquiète, ici en Suisse, c'est la même problématique, hein. D'ailleurs,
Ouais.
c'est aussi pour ça que j'étais vraiment excité à l'idée de te faire venir sur le plateau, parce que enfin, moi, dans nos médias, la RTS ou autre, une analyse des européennes, de la dissolution du Parlement français ou autre, c'est juste inexistant. Alors, après, il peut y avoir effectivement des nouvelles ou des annonces, mais pour comprendre la situation, laisse tomber. Hein. Sur les canaux traditionnels, il n'y a pas moyen de pouvoir comprendre quoi que ce soit. Ou alors, par des raccourcis et puis des trucs, de toute façon, tu sais qu'ils ne font aucun sens, quoi. Du coup, on pourra revenir. Je sais que tu en as longuement parlé sur tes chaînes, mais là, on a peut-être justement des auditeurs et des auditrices plus suisses, peut-être un peu, et de revenir de manière un peu résumée sur notamment les élections européennes qui sont passées. Puis on a passé tout de suite à autre chose, on n'a même pas pu réellement prendre la mesure des résultats. Voilà, est-ce que tu arriverais à faire une petite synthèse de comment se sont passées les élections européennes, à savoir que nous en Suisse, bah, évidemment, on n'y est pas, c'est moins un sujet puisque on n'a pas de représentants, on ne fait pas partie de l'Europe ni du Parlement européen. Bien que pour certains, notamment à gauche, c'est toujours un rêve, mais un rêve qui s'éloigne parce que la population, voyant l'étendue du désastre, est de moins en moins prône à... Ben, il faudrait qu'on vote, si tu veux. On avait voté là-dessus il n'y a pas passablement de temps.
Votation. Ah ouais, mais c'est vrai que les élections européennes, en fait, elles n'ont rien changé. C'est ça qui est incroyable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les élections européennes, la France envoyait 81 députés européens au Parlement européen. C'est rien. Et que même si le Rassemblement national a fait plus de 30%, au Parlement européen, les forces politiques n'ont quasiment pas changé. C'est le PPE, le Parti populaire européen, parti d'Ursula von der Leyen, de la CDU, hein, les chrétiens démocrates allemands, qui est toujours le parti majoritaire au Parlement européen, comme depuis sa création. C'est-à-dire, c'est une hégémonie qui n'a jamais bougé. Et donc, des élections pour rien, pour un Parlement qui ne va pas changer, des luttes de pouvoir, évidemment, pour savoir si von der Leyen est reconduite ou pas, mais au sein du PPE, c'est-à-dire c'est pas nous, citoyens européens, qui allons virer von der Leyen, c'est le PPE qui va se mettre d'accord entre caciques pour dire peut-être moi je vais prendre sa place, il serait temps, voilà. Et Emmanuel Macron décide, pour des élections qui n'ont rien changé au Parlement européen, de dissoudre l'Assemblée nationale française. Pourquoi? Pour en faire un drame, pour dramatiser, pour dire regardez, l'Europe, elle est en danger, les extrêmes droites, les partis nationalistes peuvent prendre le pouvoir, ils sont aux portes du pouvoir, il faut un sursaut, il faut agir. Et donc, parce qu'il fait ça, il veut de nouveau se mettre en sauveur, il veut aussi que tout le monde le regarde comme d'habitude, parce qu'il y a une maladie psychologique chez Macron. C'est un pervers narcissique, c'est clair. Maintenant, je veux dire, si personne ne veut le dire publiquement, il faut le dire. Ce mec-là est psychologiquement instable, et prend tout de manière personnelle, très mal, et n'est pas capable d'endosser, les habits d'un président de la République qui est une institution. Lui, il est malade de son image. Et donc, il prend donc sa défaite très mal. Il veut tirer la couverture à lui en disant: regardez, en France, les fascistes sont aux portes du pouvoir et pourtant j'ai essayé de faire rempart pendant 7 ans. Il n'a rien fait. Il a fait une autoroute au RN en utilisant toutes leurs thématiques, en votant des lois que le RN aurait pu voter, en systématiquement faisant monter le Rassemblement national en disant regardez, et agiter la peur, hein, d'un passage politique du Rassemblement national. Et donc, cette élection qui n'avait aucun impact sur la scène politique française, il en fait un psychodrame personnel, mais aussi européen. Pourquoi? Ça va permettre à la Commission européenne, qui va être en formation, de devenir une commission de combat contre les extrêmes, les populistes, etc., et d'accélérer l'agenda de censure européen. J'en parlais dans la revue de presse à l'instant, avec des lois algorithmiques pour aller casser les canaux cryptés comme Signal, etc. Des lois qui sont en discussion, qui sont extrêmement graves, hein, qui sont des backdoors, qui sont des lois de contrôle de toutes les communications au niveau européen. On a déjà vu la censure des réseaux sociaux. Ben, tout ça va s'accélérer parce que justement, il faut lutter contre les populistes et les extrémistes et les nationalistes. Ursula von der Leyen, si elle est reconduite, veut faire une commission de combat avec un commissaire européen à la défense. L'Europe de la défense, où tous les pays de l'OTAN dépensent plus de 2 200 milliards de dollars en armes, avec une surproduction qui est en train de se mettre en place pour rentrer en mode économie de guerre. Et donc, cette dramatisation permet de dire, imaginez si des pro-Poutine sont au pouvoir. Alors, il faut absolument, absolument aller encore plus vite sur le front ukrainien, etc., puisque le Rassemblement national est accusé d'être pro-Poutine. Et tout est comme ça. Et donc, c'est une mise en scène dramatique d'une drama queen qu'est Emmanuel Macron pour justement avoir toutes les lumières braquées sur lui et pour permettre aussi dans un jeu double de pousser l'Europe vers davantage de caricatures, davantage de censure et ce côté l'Europe peut mourir, regardez, je vous l'ai dit, regardez, alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison de dissoudre, si ce n'est dissoudre avant la fin de l'année, puisqu'en France, vous savez, on est un pays en faillite, 3 000 milliards de dettes, 110% d'endettement. Du PIB, commerce extérieur, toutes les balances sont au rouge. Bruno Le Maire a sauvé l'économie française, mais pas vraiment en réalité. Et donc, en fin d'année, le budget aurait été invotable et il y aurait sans doute eu une motion de censure et il aurait dû dissoudre à la fin de l'année. Donc, il choisit de prendre un peu d'avance, de refiler le bébé, c'est-à-dire le bébé mort, hein, un budget qui n'est invotable et un pays en faillite aux autres, en disant voilà, démerdez-vous. Hein, et donc arriver avec une crise institutionnelle et politique majeure et sans doute se poser à nouveau en sauveur alors qu'il est l'ingénieur du chaos et le responsable de cette faillite. Donc c'est insupportable, c'est insupportable. Et personne dans la classe politique ne l'attaque à boulet rouge pour ce qu'il est, c'est-à-dire un danger pour la France. Hein, ça prend des petites phrases, on explique qu'Emmanuel Macron, c'est un enfant qui joue avec des allumettes, machin. Non, c'est un mec dangereux. Il l'a prouvé pendant 7 ans, et là, on arrive à un point où ça devient critique, et cette dissolution, elle le montre, et c'est une mise en scène stratégique, dramatique, pour pousser à toujours plus d'un agenda autoritaire en réalité, hein. S'arroger les pleins pouvoirs, trouver une nouvelle constitution, créer la crise pour se poser en sauveur, enfin ça suffit, merde,
Classique.
c'est insupportable.
Ouais, bien sûr. Alors, tu disais que l'Europe a pas changé. Effectivement, il y a un peu une poussée de droite, mais finalement avec les mêmes politiques de toute façon libérales, un peu plus agressives peut-être. Est-ce qu'en France, néanmoins, la situation elle a changé, notamment depuis les dernières élections présidentielles, par exemple? En quoi?
Tant de macronisme a fait que des gens qui ne votaient pas RN vont voter RN. Que des gens qui étaient macronistes, qui faisaient barrage contre l'extrême droite, vont dire bon, ben, ça suffit, c'est foutu de notre gueule. Que la gauche aussi, finalement, est en train de redonner une chance à François Hollande. Enfin, c'est dingue. La gauche, enfin, la gauche
Ouais,
PS, hein,
non,
la gauche
c'est.
de gouvernement qui essaie de faire une OPA sur la gauche et la France insoumise qui essaie de résister tant bien que
Mais
mal.
c'est qui décide ça, par exemple, je me demande. Qui c'est qui est d'accord que Hollande, tout d'un coup, il prenne un siège comme ça? C'est quel parti? C'est les socialistes?
C'est socialiste, oui, qui laisse faire
Alors
dans leur
même qu'il
intérêt.
avait détruit leur parti, tranquille, ils font un petit
Mais ils
boulevard
ne le voient pas comme
et la
ça.
montagne.
C'est-à-dire qu'il faut voir que la Hollandie, ils ont peut-être détruit un parti, mais ils veulent reprendre le pouvoir. Enfin, c'est un monde feutré, de gens déconnectés, qui font des petits coups foireux. Et c'est un jeu. Donc on continue et on se dit, tiens, si on pouvait reprendre le pouvoir. Et il y a quelque chose qui traverse la gauche et depuis longtemps. C'est un antagonisme fort. Enfin, Jean-Luc Mélenchon veut prendre sa revanche sur le Parti socialiste depuis 2005, la trahison, hein, du traité européen, du vote européen. Et il a réussi avec son aventure personnelle qui est devenue un mouvement fort, la France insoumise. Et au PS, on veut faire la peau de Mélenchon. Et particulièrement François Hollande. Donc c'est ça, c'est ces jeux-là qui font que on va avoir, et d'ailleurs les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais c'est pas pour rien qu'il s'appelle le Front populaire. Le Front populaire, c'est en 36, en 39, c'est la guerre. Là, on a un Front populaire qui va récupérer un pays en miettes, l'inflation, la crise économique, tous les germes de la guerre sont déjà là. Il suffit simplement de pousser un peu plus loin et c'est le troisième suicide européen. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Si personne n'empêche von der Leyen a un nouveau mandat, si personne n'empêche les Macron et les autres à continuer dans leur rhétorique du suicide, parce que c'est un suicide, hein. C'est exactement comme la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre qui n'a pas lieu d'être. Les accords de paix devraient être mis en avant le plus rapidement possible, quitte à revenir sur la table plus tard. Mais là, non, on va aller droit au suicide avec l'idée de continuer les sanctions, de couper l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est. Enfin, pas de l'Europe de l'Est, puisqu'on a grappillé beaucoup avec l'Union européenne, mais de la Russie. Et c'est d'une hypocrisie sans nom, puisque au mois de mai, l'Autriche a multiplié ses importations de gaz russe de 95%. Et l'Europe, dans son entièreté, a importé plus de gaz russe que de gaz américain. Et toutes ces sanctions ont flingué l'économie européenne. Mais là encore, personne ne peut le dire, parce que si vous le dites, vous rentrez dans ce que je disais, le crédit social, et vous êtes vu comme un agent de l'étranger, vous êtes vu comme un déstabilisateur, vous êtes vu, alors que vous dites simplement des faits. Des faits tragiques, réels, de gens qui sont irresponsables, qui précipitent de nouveau l'histoire européenne du côté du suicide. Moi, ça m'est insupportable, mais visiblement, le dire, c'est difficile pour plein de gens qui ont des mandats politiques. Je ne comprends pas
On
pourquoi.
reviendra sur la proximité de la guerre tout à l'heure. Je voulais encore t'entendre sur les européennes, parce que j'ai la difficulté à comprendre peut-être certaines nuances, notamment que le Parti socialiste, avec Glucksmann en tête, finisse finalement devant la LFI aux européennes. Est-ce que je me disais que c'est peut-être parce que le Parti socialiste est très convaincu par l'Europe, alors que les LFI sont peut-être plus critiques vis-à-vis de cette institution, et que dès lors, le rapport de force n'aurait pas vraiment changé, mais que les LFI auraient moins voté. Mais à mon avis, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui fait que lors des dernières élections françaises, la LFI était largement devant les socialistes, et que là, finalement, ça s'est un peu inversé dans cette élection européenne? Ou quoi?
À l'élection présidentielle, la dynamique était évidente. C'est-à-dire que ce qui a fait perdre la gauche, c'est le fait d'avoir Anne Hidalgo, c'est le fait d'avoir Fabien Roussel, qui ont maintenu leur candidature, sachant qu'ils allaient faire un score pitoyable. Et donc, pas de second tour. Et donc, voilà. Et puis, ce qui a changé, je crois, c'est que il y a eu cette élection législative suite à la présidentielle, qui a déjà été un désaveu de Macron, puisqu'il n'a pas eu la majorité absolue, où il y a eu beaucoup de députés de gauche qui sont arrivés sous la bannière de la NUPES à l'époque, et où beaucoup de députés de la France insoumise ont pu être placés. Et puis depuis, on a vu la fin de la NUPES, puisque cette union de la gauche, elle est opportuniste, elle est systématiquement avant des élections, mais après l'élection, la gauche se déchire. Comme avant, mais il y a juste cette période électorale où il faut bien faire un front pour sauver des sièges, et donc l'alliance est nécessaire, sans quoi c'est la fin pour le Parti socialiste, par exemple, qui placera personne. La fille est très consciente de ça, mais elle joue le jeu. Les socialistes, c'est un parti qui est habitué à faire des deals de partis, à discuter, donc ils le font très bien. Les Verts, c'est plus compliqué, je pense, et le PC, eux, ils ont une vision du monde qui n'a pas beaucoup changé. Ils pensent être encore un parti important, alors c'est un parti qui a du mal aussi à exister, mais qui a beaucoup d'élus hein, au niveau local quand même. Donc, alliance de circonstances qui pète systématiquement après les élections. Pourquoi le PS revient? Parce que c'est les législatives. Et donc, ce jeu des sièges, le Parti socialiste, c'est un parti qui est ancré au niveau local. qui a beaucoup d'élus dans les mairies, dans les villes, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, etc. La France insoumise, beaucoup moins. C'est un parti où on voit beaucoup les députés, mais qui a beaucoup moins d'élus sur un maillage territorial, les maires, etc. Donc c'est ça qui change la donne sur des législatives. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce retour en disant, bah ouais, vous voyez, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis il y a eu bien sûr, le 7 octobre, l'attaque du Hamas sur Israël et la réponse d'Israël à Gaza, avec la cause palestinienne qui a repris le devant dans la sphère de gauche, où la France insoumise a pris le lead sur cette thématique de la défense du peuple palestinien, qui a été très mal vécue par un parti socialiste qui essaye de ménager la chèvre et le chou, qui est quand même très atlantiste et qui a toujours eu du mal avec la cause palestinienne, comparé à l'extrême gauche, hein, NPA, des partis beaucoup plus à gauche que la France insoumise, qui eux ont toujours fait de la cause palestinienne une cause centrale. Donc ça a changé la donne et puis on en arrive là aujourd'hui à cause de tout ça, quoi. C'est une concordance de faits.
On reviendra aussi après sur Birkenstock notamment, mais en Suisse on a moins cette culture de la figure, tu sais, de la personne qui porte tout le reste, comme un Mélenchon ou un peu importe qui, à Hollande ou autre. Je pense qu'on n'arrive pas forcément à avancer beaucoup mieux, hein, mais cette culture-là est moins forte et du coup on attaque moins facilement les gens, on attaque plus facilement et on parle peut-être plus du fond. Mais là, c'est vrai que quand je regarde les déclarations des ténors des partis, je me dis ils sont plus affairés à s'envoyer des fions que à faire de la politique. Mais ça doit être super difficile quand les médias jouent le même jeu. C'est-à-dire, eh ben, tu l'avais bien montré, là, c'était vraiment aberrant quand elle a marqué Mélenchon, MLM, problème, etc. Enfin, tu vois bien qu'il y a un jeu des médias aussi qui joue à foutre la merde, en fait.
À Radio France sur des humoristes en plus hein, qui sont là pour être le poil à gratter justement alors que la blague n'est pas plu à certains très bien mais de là à virer un humoriste parce qu'il a fait son boulot ça dit tout en fait de ce monde de la propagande et de la censure dans lequel on est plongé tout le monde est en danger dans ce monde-là tout le monde est en danger et les médias sont propriétés de milliardaires. Il y a eu un rachat de BFM par Rodolphe Sadé, qui est un armateur de Marseille, qui a racheté ça à Patrick Drahi. Vous avez Bolloré, qui a acheté énormément de médias et qui fait campagne pour le RN, du moins pour l'Union de la droite, de manière ouverte, hein, dans tous ces médias, H24. Et puis, vous avez Bernard Arnault, qui est le sponsor officiel du couple Macron et qui essaye de sauver les meubles, d'une certaine façon, sans trop y croire. Mais tous ces médias-là ont à peu près un même angle. Il faut être raisonnable, il faut voter au centre, il faut faire attention aux extrêmes avec un signe égal entre extrême gauche et extrême droite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de regarder les programmes. Enfin, vous avez ce qui est catastrophique, c'est que je disais tout à l'heure de pourquoi aucun élu ne veut dire les choses sur un, le drame européen, la volonté du suicide portée par des responsables irresponsables qui nous emmènent à la guerre parce qu'ils n'ont plus que ça pour sauver les meubles et masquer la faillite.
Clairement.
Deux, sur la construction européenne, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi on en arrive là alors que ça devait être une source de progrès et que c'est devenu simplement un outil du dumping social, du dumping fiscal et de la concurrence de tous contre tous avec en plus un danger pour les frontières? Personne ne veut poser le problème réellement, y compris au sein des partis d'extrême droite ou de droite. Enfin, je veux dire, le Rassemblement national a complètement changé son discours sur l'Union européenne. C'est une trahison, là encore. Tous ces sujets-là, donc oui, on fait du spectacle pour enfants, du théâtre de Guignol, mais on ne fait pas de la politique. Plus personne ne fait de la politique. Je vois personne qui est courageux et qui fait de la politique. Et encore, peut-être Mélenchon, parce que justement, il a compris que sur Gaza, il fallait prendre un axe et dire c'est le droit international, il en va de l'humanisme, mais sur l'Union européenne, là encore, c'est flou, ça ne va pas assez loin sur ces thématiques-là qui sont centrales. Centrale, l'idée d'avoir voulu diaboliser les nations pendant des décennies pour faire passer le projet européen, aujourd'hui, regardez où on en est, tout le monde est en train de soutenir les nationalistes ukrainiens, dont certains sont néo-nazis, en disant, mais oui, il faut y aller, c'est super important, ils doivent se défendre parce qu'ils sont attaqués. Bah oui, mais c'est une nation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et les autres, eh bien, on va essayer de les masquer dans un flou où certains y voient d'ailleurs leur porte de sortie. Quand je dis Bruno Le Maire veut devenir commissaire européen, mais Emmanuel Macron, j'imagine, se voit très bien en nouveau leader d'un pacte européen avec de nouvelles institutions où il serait une sorte de président de l'Europe, parce que ce mec est malade de son ego. Il faut surtout pas que ça arrive, hein, entre parenthèses. Mais on en est là. Et les questions politiques réelles ne sont pas, sont jamais posées en ces termes. On est toujours aux marges, en fait, à parler des problèmes, mais gentiment. Et regardez le Jordan Bardella, tout ce qu'il fait là en ce moment, c'est de dire, oui, on a promis ça, mais alors, on le fera, mais dans un deuxième temps. Et le deuxième temps, je vous le fais, hein, je vous fais vite un divulgachage et un spoil. Le deuxième temps, c'est, ah ben oui, mais on voulait le faire, mais alors là, on ne peut pas parce que les finances publiques, c'est dans un tel état que ben, là, franchement, il faut d'abord aller sur la priorité économique, etc. C'est une blague. Qu'il y ait des gens qui y croient encore, moi, ça me sidère. C'est impressionnant de voir la naïveté ou la volonté d'être crédule de certains. Enfin, on est arrivé à la fin, là. Tout le monde est à poil. C'est une grande partousse, tout le monde est à poil et raconte n'importe
C'est plus
quoi.
le roi
La
est nu, c'est
réalité,
tout le
c'est
monde
que...
est à poil.
Ah non, ouais, c'est plus le Roi Nu, c'est une partouze. Et ça se passe très mal. Et c'est tout le monde y va... Mais en étant volontairement crédule, je crois, parce que sinon, il y a eu un découragement profond et on veut changer les choses. Tout le monde veut se débarrasser de Macron, tout le monde veut arrêter avec cette logique de la guerre, tout le monde veut revenir à un bien vivre où on peut vivre de son salaire et non pas avoir peur de la fin du mois. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on a des Bruno Le Maire qui t'expliquent que la dette, c'est bien et qu'il a sauvé l'économie française en nous précipitant dans la faillite? C'est dingue, en fait. Voilà. Et pourquoi? Bah parce que la démocratie est malade, parce que la réalité, c'est que les mouvements citoyens n'ont pas pu s'organiser. Ils ont été massacrés quand c'était les Gilets jaunes. Ils n'ont pas accès aux médias quand c'est les conventions citoyennes ou certaines initiatives. Regardez du côté de l'UPR, du camp souverainiste, etc. Pas d'accès aux médias, parce que gros mot, Frexit, petit parti, inexistant. On n'en parle pas. Donc, c'est verrouillé à tous les étages. Et ces verrous, c'est une chape de plomb qui fait qu'on en arrive à ces décisions qui sont des décisions suicidaires, qui sont tragiques, parce qu'il n'y a pas la sanction populaire pour dire non, on n'en veut pas de ta merde. Excusez-moi du terme. Et donc, on est obligé de bouffer de la merde, matin, midi et soir.
Effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour l'intelligence et beaucoup pour la médiocrité, mais ça, moi j'ai l'impression que ça va être l'apanage d'à peu près tous les pays du monde, même s'il y en a, ils sont plus ou moins avancés.
Deux candidats à la présidentielle, c'est du délire. T'as un vieillard sénile et t'as un vieil obsédé qui essaye de se faire passer pour le mec qui va sauver tous les prolos de son pays. Mais et pareil, crédulité organisée avec des camps très organisés derrière. Enfin, Joe Biden ne décide de rien. Vous avez derrière Obama, Blinken, mais Joe Biden, vraiment là, c'est tragique parce que, mais c'est monstrueux même de voir que ce théâtre continue et que personne veut juste dire, allez, on va arrêter les frais là, c'est n'importe quoi,
Et
c'est
tu
vraiment
penses que
n'importe
c'est un
quoi.
stade où on pourrait arriver? Des fois, je pensais à l'époque, bah, la révolution, elle était aussi possible parce que la culture et la dureté de la vie étaient peut-être un peu différentes. Maintenant, il y a aussi beaucoup le politiquement correct, on touche pas, on peut insulter, oui, mais est-ce que tu as l'impression qu'à un moment donné, il va pouvoir y avoir un renversement ou une révolution? C'est le grand soir qui est tant attendu par tout le monde. Non, je crois que ça viendra pas comme ça, mais quel
Non,
facteur
parce que
pourrait
un
être
peu.
celui du changement à part celui de la guerre totale telle qu'on l'avait vécue peut-être il y a
Non, mais
70 ans?
aujourd'hui, le principe révolutionnaire, il est très présent. C'est David Graeber, le regretté David Graeber, qui expliquait que le processus révolutionnaire, il est enclenché à partir du moment où les élites sont déconnectées et comprennent plus ce qui se
Mais c'est le
passe.
cas.
On est là-dedans. C'est absolument le cas. Et donc, après, c'est un processus qui se passe sur des décennies. Mais il faut voir que avant le Covid, en 2019, il y avait plus d'une vingtaine de pays où le peuple était dans la rue contre ses dirigeants. Voilà. Là, vous avez en Argentine des gens qui étaient dans la rue contre Milei. En France, c'est systématique. Macron, il y a un rejet physique hein, de ses politiques par le corps social. C'est partout pareil. Rishi Sunak est un leader qui n'a aucune légitimité populaire au Royaume-Uni. Ne parlons pas d'Olaf Scholz. Ne parlons pas non plus d'Ursula von der Leyen. Enfin, partout, vous avez en réalité des gens qui sont manettes et qui n'ont aucune légitimité populaire. qui n'ont pas la majorité en réalité. Et ça, c'est ce qui va commencer à faire le ferment d'une révolution. Effectivement, pour qu'il y ait une révolution, il faut que les gens n'aient plus rien à perdre. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup à perdre.
En
Il y
Occident.
a. Bah oui, et puis c'est des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans un cycle de violence. Mais une révolution, elle peut se faire sans violence. Mais pour ça, il faudrait avoir une stratégie de prise du pouvoir. Et la prise du pouvoir, elle se fait comment? D'abord, par la prise des médias. Parce que c'est une idée. L'idée, quand elle est mûre, la révolution, elle est inéluctable. Le moment où l'idée est là, et ce n'est pas une révolution, c'est juste une prise de pouvoir. Il ne faut pas appeler ça une révolution. C'est un moment où il faut dire, le peuple doit reprendre le pouvoir. Il a été dépossédé pendant des années. La démocratie représentative a atteint ses limites. On le voit bien, les représentants ne représentent rien, si ce n'est une politique de la rente. Ce sont des rentiers qui vivent de l'impôt et qui expliquent aux gens ensuite comment il faut travailler. Hein. À un moment, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est toute la stratégie de long terme de la prise de pouvoir qui doit être revue au XXIe siècle, avec les outils cognitifs qui sont les nôtres, les réseaux sociaux, les médias, l'intelligence artificielle et tout le jeu de la censure et de la propagande qui va empêcher ça, puisque derrière, il y a trop à perdre pour ceux qui actuellement sont ceux qui se mettent en scène et prennent du temps de cerveau disponible. Mais c'est ça aujourd'hui qui devrait intéresser les partis révolutionnaires ou les partis émancipateurs, c'est de dire comment on arrive à renverser la vapeur et à prendre les médias et à imposer les vrais débats. Et ça fonctionne même naturellement, c'est-à-dire que le souverainisme, qui était un gros mot il y a de ça 5 ans, est devenu une thématique centrale de tous les partis, y compris des partis fédéralistes comme le macronisme, qui utilise le mot souveraineté pour déposséder, pour le vider de tout sens, mais qui est obligé d'utiliser le mot souveraineté. Donc ces idées-là, elles progressent. Elles progressent quoi qu'il en soit, comme la nouvelle rupture entre la gauche et la droite. Quand on voit ce qui se passe avec le Rassemblement national, c'est quoi? Pourquoi Éric Ciotti choisit de s'allier avec le Rassemblement national? Parce qu'il sait que derrière, les Républicains n'ont plus d'électorat populaire. Donc il faut récupérer un électorat populaire d'une manière ou d'une autre. Il est où l'électorat populaire? Au RN. Donc on y va et puis on verra ce qui se passe. La FI, c'est pareil. C'est la caution de gauche de l'électorat populaire. Le PS ne parle plus aux classes populaires. Et depuis longtemps, le PC a bien du mal. N'en parlons pas des écolos. Donc c'est une lutte en fait, une redistribution des cartes sur vote populaire ou vote élitiste, sur qui gagne, qui perd. Et depuis trop d'années, ceux qui gagnent sont ceux qui gagnent tout le temps, et ceux qui perdent sont ceux qui perdent tout le temps, et ça peut pas fonctionner, d'où la mécanique révolutionnaire. Et puis une redistribution des cartes aussi au niveau international, où on voit bien la fébrilité de l'Occident, qui essaye à coup de G7, à coup de grands sommets pour la Terre, à coup de machin, de lutter et de faire en sorte que ça fonctionne. Alors attention, l'hégémonie occidentale, elle est encore très très présente parce que ce sont les grands pays vendeurs d'armes et des grands pays de technologie. Les États-Unis, ce sont eux qui ont l'arme du futur, l'intelligence artificielle. Donc ça va pas changer de sitôt. Hein, faut pas croire que parce qu'il y a les BRICS, que la redistribution des cartes va se faire. Non. Le but des États-Unis, il faut comprendre, c'est de garder la position hégémonique à n'importe quel prix. Ça a été une doctrine mise en place dans les années 60, elle n'a pas changé depuis. Et n'importe quel prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire une guerre mondiale. Donc l'IA, elle est là, elle n'est pas là pour qu'on fasse des blagues avec des images rigolotes, avec ChatGPT qui va nous écrire des bouquins gratos, etc. Non, elle est là pour la guerre. Elle est là pour la position hégémonique. Et aujourd'hui, les États-Unis l'ont bien compris. Et encore une fois, c'est eux qui sont en position de force et qui sont en position numéro un avec des entreprises comme OpenAI, mais aussi avec des gens comme Elon Musk, avec Amazon, avec Google, enfin tous les GAFAM qui ont bénéficié de la commande publique du Pentagone et qui, eux, sont largement subventionnés pour justement aller dans la recherche. D'ailleurs, à Google, ça avait créé une crise en interne. Certains chercheurs refusaient de travailler pour la défense. Ça a vite été mis de côté, ils ont été virés, et puis Google travaille pour la défense américaine. Et donc, cette guerre-là, elle va maintenant se baser sur des produits de guerre cognitive. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Parce que, ben, du coup, une révolution à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut avoir lieu? Moi, je ne pense pas. Elle peut avoir lieu, mais d'une manière déguisée, cachée. Un événement va peut-être provoquer quelque chose, mais la guerre cognitive, telle qu'elle est aujourd'hui, les révolutionnaires sont perdants. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les moyens, en fait, de la mener, cette révolution.
Oui. Quid de l'outil de l'élection? Parce que moi, j'ai arrêté d'élire depuis quelques années déjà. On vote toujours parce qu'en Suisse, on a souvent des objets dits référendaires, donc des référendums ou des initiatives qui émanent du peuple ou des parlementaires qui peuvent objecter une loi qui aurait passé. Donc l'élection, pour moi, ça mène toujours un drame par la suite. Mais là, par exemple, il y avait les européennes. Est-ce que tu as voté? Et puis là, est-ce que tu entends voter? Moi, si j'étais français, moi, ce qui m'intéresse, c'est y a-t-il des éléments de rupture dans les partis qui se proposent? C'est pour ça que, avant d'arrêter de voter, je votais pour la gauche radicale en Suisse. Il y en a une aussi, elle est toute petite et peu audible et peut-être crédible aussi, notamment sur des sujets comme la liberté d'expression, pour moi, où ils ont complètement raté le coche. Mais bref. Donc, si j'étais en France, très franchement, je ne sais pas si je voterais pas. Je pense quand même que je voterais LFI parce que je vois qu'il y a des éléments de rupture. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait réellement être mis en pratique. Du coup, là, je me retourne un peu vers toi. Tu vas faire quoi pour ces élections? Est-ce que ça vaut toujours la peine de voter pour éviter le pire, comme on entend souvent, en sachant qu'après, ça va être de nouveau un bordel monumental?
Moi, je pense qu'il faut voter. J'ai toujours dit qu'il fallait voter parce que c'est un droit. Et alors, même si, j'y reviendrai sur la crédulité, c'est un des problèmes, si vous n'utilisez pas ce droit-là, il va tomber en désuétude. Et donc, vous inquiétez pas que nos chers leaders s'empresseront de vous le supprimer. Donc, le droit de vote, il a fallu se battre pour l'avoir quand même.
Tu veux dire l'élection, parce que pour moi, c'est pas la même chose, hein. Le droit de vote sur un sujet
Ah non,
politique
mais
et le...
l'élection va avec le droit de vote. Non, non, le droit de voter, en fait. Attention, parce qu'effectivement, là, on est sur un théâtre de guignol, je suis d'accord, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que, justement, la force populaire, enfin, le peuple a été dépossédé du pouvoir. Mais sur le principe de l'élection, du droit de vote, il a fallu se battre pour l'avoir. Donc, il faut le garder. Donc, il faut continuer de voter pour garder ce droit-là, même si aujourd'hui, voter, c'est un jeu à somme nulle entre des caricatures de partis qui vont se partager une rente de sièges et puis ensuite qui vont dire « je peux rien faire parce que bah, l'économie, vous comprenez? » Donc, on est un peu coincé parce que bah, la dette, tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, le seul parti qui a un discours de rupture, notamment sur la taxation des riches, notamment sur la répartition des richesses, mais aussi sur la géopolitique, c'est la France insoumise. Avec toutes les limites, là encore, les œillères sur la construction européenne, les œillères sur ce qu'a été ce moment fasciste qui était le pass sanitaire. Donc voilà, mais il y a une ligne qui n'a pas bougé sur la répartition des richesses. Et le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec cette captation par les rentiers hein, du travail, des travailleurs qui se retrouvent paupérisés par l'explosion des rentes, des dividendes, etc. Donc, pour moi, ça me paraît clair, la lutte des classes reste une des grilles de lecture d'actualité de la société occidentale. Hein. Il y a des pauvres, il y a des riches, et les riches sont organisés pour déposséder les pauvres et les empêcher d'accéder au pouvoir. Donc, c'est important. Le bloc bourgeois, tous les autres partis, pour moi, font partie du bloc bourgeois et maintiennent un statu quo avec un peu de saupoudrage pour dire, voyez, vous comprenez, il faut quand même que ça tienne. Mais si on est un peu sérieux sur les forces en présence et la lutte des classes, qui est réelle, même si, attention, c'est plus les classes ouvrières, elles ont changé. On va parler maintenant des salariés, des employés, des fonctionnaires, enfin de toutes les classes intermédiaires qui vont perdre leur boulot avec l'intelligence artificielle aussi, qui sont déjà dans une peur de la perte de travail, où on leur explique que le chômage en plus ne sera plus un droit, ou alors va être un droit à menuiser, même s'ils payent toujours autant. La lutte des classes, elle est là, elle est très présente, même si les acteurs se sont un peu déguisés, ont un peu changé du fait d'une sociologie qui a un peu changé au niveau de la société. Mais tout ça est très présent. Donc oui, si on suit ça, il faut aller de ce côté-là, évidemment, pour au moins avoir une poche de respiration et dire on peut changer les choses. Mais on ne pourra pas changer les choses parce que l'ordre international, c'est Wall Street. Parce que l'ordre international, c'est les fonds de pension américains qui vont dire à un moment, bah écoutez, non, mais moi j'ai investi dans de la dette française, je veux mon retour sur investissement. Ou les fonds de pension canadiens, ou etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les pompes funèbres générales, les pompes funèbres en France, sont la propriété d'un groupe de pension canadien. Donc nos morts payent leur retraite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la mondialisation qui a permis ça. Et la mondialisation, elle est d'abord financière. C'est ce qui fait qu'il y a autant de fortunes en milliards actuellement. Et c'est ce qui fait que on ne peut rien changer tant que l'ordre financier n'est pas challengé, n'est pas remis en cause. Tant qu'on va dire oui, on s'endette à tel taux, on n'a pas le choix, et ensuite on vous promet des réformes de casse sociale pour avoir le droit de continuer à jouer, rien ne va changer. Donc il faut un moment, effectivement, essayer de voir jusqu'où on peut aller, mais on l'a déjà fait en France, ça s'appelle 81, c'est François Mitterrand, ça dure 2 ans. En 83, Mitterrand est obligé de changer toutes les politiques qu'il avait essayé de mettre en place parce qu'il y a ce mur de l'argent. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui a été accompagné par les dirigeants. Ils ont choisi de donner le pouvoir à la finance dans les années 70, en réalité, quand ils ont décidé de faire exploser les intérêts de la dette et décidé de laisser au marché la main mise, la main haute sur l'endettement. Et puis, alors après, c'est encore pire sur la création monétaire avec l'euro. Donc, ce jeu-là, il empêche tout changement, d'une certaine façon. Et c'est d'ailleurs toute la beauté du truc. Quand tu dis est-ce qu'il faut aller voter? Moi, je parle de naïveté volontaire, parce que sinon, on laisse tomber et on se dit oui, effectivement, ça sert à rien, parce qu'on sait très bien que ça va mal se passer. Peu importe ce qui sort des urnes le 7 juillet, la réalité, c'est que la politique austéritaire qui a été engagée, eh bien, il va falloir la continuer parce que 3 000 milliards de dettes, parce que derrière, c'est les marchés qui vont nous tomber sur la gueule et c'est la Grèce qui nous attend, ce qui s'est passé après la crise financière de 2008. Donc tout le monde est conscient de ça. Mais on met un peu ça de côté et puis on se dit, allez, on va quand même essayer de faire un truc. Mais c'est la limite, elle est là. Aujourd'hui, le pouvoir, il n'est plus politique, il est économique. Et particulièrement, il est financier. Qui est propriétaire de la dette et qui décide à quel moment vous devez faire des efforts pour que la dette puisse continuer d'être un bon produit financier.
Ma peur, c'est qu'on légitimise d'une certaine manière le système quand on va voter, et après, les puissants, ceux qui reçoivent le pouvoir 10 fois sur 10, et ils disent, mais vous voyez, regardez, etc. Alors que s'il y avait peut-être 100% d'abstention, la chose serait différente. Mais je comprends le dilemme, et moi, je.
Mais 100% d'abstention, mais même 100% d'abstention, tu fais quoi? Tu refais des élections, tu dis qu'est-ce qui se passe? Vous aviez mangé un truc, vous étiez malade, les Français? Bon, déjà, tu n'auras pas
Vous étiez
100%
malade. La presse
d'abstention.
trouvera bien des excuses pour expliquer ça. Non,
Non,
effectivement,
non,
c'est
mais,
utopique.
mais je suis d'accord que voter légitime ce système de représentativité faussée, mais je ne vois pas d'abstention. Enfin, elle est majoritaire à chaque élection, déjà, bon, c'est un fait. Mais de dire aux gens, ne votez pas, vous savez que derrière, plein de gens vont en profiter pour dire, c'est le moment de voter, puisqu'il y a eu un appel à l'abstention. Donc allons-y. Donc ça fausse encore plus les règles, d'une certaine façon. Non, ce qu'il faudrait, c'est effectivement donner des voix à des partis qui veulent un changement de paradigme, mais c'est loin d'être le cas, et puis sortir des faux débats et rentrer dans des vrais débats politiques. Mais personne ne veut les avoir aujourd'hui, personne.
Alors, un des signes aussi qui montre quand même que moi je voterais en France, hein, si j'étais en France, que je voterais, c'est la peur panique en fait. Quand tu vois la peur panique du système de droite à gauche contre le LFI et autres, et bien là tu dis, ah, il doit y avoir vraiment un truc qui les dérange. Donc pour moi, ça serait déjà suffisamment un argument suffisant pour aller voter, parce que vraisemblablement, ils ont très très peur de quelque chose. Là, alors maintenant, je pense qu'il est contrôlé parce que le Front populaire, il y a le contrôle atlantiste qui est avec LFI, et puis du coup, je pense qu'il. Enfin, je sais pas si tu pourrais me dire, mais est-ce que le Front populaire est dangereux? Moi, je pense pas, parce que sinon, toute la droite de la gauche, si on veut bien dire comme ça, elle serait pas rentrée dans le jeu. Donc, je pense pas que là, il y a du subversif dans le Front populaire. À part Poutou, peut-être. Mais c'est juste un homme, donc.
Et lutte ouvrière qui reste fidèle à sa doctrine, hein, révolutionnaire. Mais la réalité, c'est que ce Front populaire, c'est la volonté de refaire une gauche de gouvernement, d'une certaine façon. Donc il n'y a rien qui change là-dessus, avec en plus le retour quand même incroyable de François Hollande, quoi. Enfin, des choses qu'on pensait remiser dans un placard pour longtemps. Donc il y a vraiment cette limite-là. Qui fait que c'est pas un parti dangereux, je pense, même si certains comme Macron essayent de faire croire que c'est dangereux pour la laïcité, pour les libertés, enfin, on a vu ce qu'il a fait avec le Covid. Enfin, le danger, il n'est pas là. Et donc, Il y a ce mensonge-là déjà, et d'une, et puis le fait que c'est un parti qui reste, enfin, c'est un groupement d'intérêts qui reste très, très bourgeois dans sa façon d'aborder les problèmes. Là, encore une fois, on ne va pas parler des vrais problèmes. On va un peu parler d'un programme économique, justement, de rupture, en disant cette fois-ci, on va taxer les super profits, on va faire des choses, etc. Mais regardez, la ligne, c'est on continue la guerre en Ukraine. On continue tout ce qui est de l'ordre de la politique atlantiste, de l'accompagnement de l'Union européenne. Il n'y a pas de volonté de rupture de ce côté-là. Or, c'est là que le drame va arriver.
Et pourquoi, comment tu vois cette panique envers le LFI? Par exemple, là, on voit même dans les commentaires, hein, quand tu parles de Mélenchon, c'est assez tranché. Il y a tellement de propagande, moi je suis pas forcément tout, hein, mais il semblerait que ce gars, soit il soit adulé, soit il soit détesté. Donc on est effectivement dans les extrêmes, pas ces fameux extrêmes gauche-droite qu'on nous vend, enfin là je vois pas le Front Populaire comme une extrême du tout, mais alors vraiment pas du tout. Puis après il faudrait encore dire ce que ça veut dire, mais comment tu perçois cette tension par rapport à LFI, hein. J'ai vu aussi, j'ai appris récemment aussi grâce à toi qu'il y avait des dissensions chez LFI, des petites guerres internes.
Très mise en scène d'ailleurs dans la presse de manière systématique, mais ouais, non, c'est bah, Mélenchon. Ça fait longtemps qu'il y a une sorte de fascination-répulsion de par les médias qui savent pas comment faire. Lui d'ailleurs en joue, puisqu'il est très violent vis-à-vis des journalistes, hein. Il les traite de tous les noms en disant de toute façon vous faites tout le temps du sale boulot, etc. Donc il y a un non-respect volontaire, c'est le côté populiste, et en même temps un jeu, puisqu'il est très médiatique. Il a écrasé tous les autres. T'as du mal à voir d'autres figures de la France insoumise, même si lui n'a aucun mandat électif actuellement. Et puis après, il fait vraiment peur aux possédants parce que il sort pas de sa ligne sur le partage des richesses et la répartition. Et c'est le seul à avoir cette ligne-là aujourd'hui. C'est le seul. Donc c'est un peu l'homme à abattre, et on le voit. Enfin, sur les milliardaires, d'ailleurs, l'ont dit quand il y a eu les commissions d'audition à l'Assemblée nationale sur le paysage audiovisuel français. Bah, clairement, les mecs disent, bah, si j'achète les Échos, c'est pas pour faire la propagande de la France insoumise. Bernard Arnault l'a dit. Donc voilà. Donc oui, les milliardaires achètent des médias pour faire leur propagande à eux. C'est-à-dire, on s'enrichit, c'est normal. Le partage des richesses, ça va 5 minutes, ça va juste pour les très pauvres, mais sinon on arrête. Enfin voilà. Et Mélenchon, antisémite, Mélenchon machin. Et c'est de la propagande derrière. Vraiment. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias qui font un travail d'information. Très peu.
Alors, tu dis de médias qui ont des vues, mais si tu regardes sur Internet, il y en a quand même passablement, comme Le Monde Moderne et d'autres, de plus en plus. C'est juste qu'il faut les chercher, puis ils sont tout pétus, puis ça se trouve, il y en a plein, on les connaît même pas, quoi. Genre, de Swissbox, tu vois.
Merci de ton invitation. J'ai toujours eu plaisir à venir parler dans ton micro. Et t'as de très bons invités.
Ouais, c'est.
Donc oui, c'est important. Mais voilà, c'est difficile d'agréger de l'audience, c'est difficile d'expliquer aussi. Beaucoup de gens n'ont pas le temps pour ça. Enfin, c'est long de s'informer, ça prend
Ouais,
du
c'est
temps de
clair.
rechercher l'information. Donc bon, et puis pourquoi finalement, puisque si on part sur une vision pessimiste, rien ne changera puisque le pouvoir n'est pas là. Donc il ne faut pas être pessimiste. C'est pour ça qu'il faut voter, qu'il faut cette naïveté nécessaire, et puis il faut aussi avoir la volonté de changer les choses. Si on l'a plus, alors évidemment, ça va être une tragédie quotidienne.
C'est
Mais il faudra s'en prendre qu'à soi-même.
certainement aussi pour ça que tu gardes ce ton. Léger et grave en même temps, c'est ça aussi l'équilibre que
Ouais.
tu arrives à faire. Si tu veux travailler sur le long terme, si on arrive sur ta chaîne, puis qu'à chaque fois c'est la déprime totale et à la fin ça donne envie au suicide, donc autant rire.
C'est drôle, parce qu'il faut voir que
Ouais, c'est des
ce
bouffons, mais
jeu
à quel prix?
hypocrite, il est drôle en réalité. Quand tu connais les arcanes, tu vois que c'est que des stratégies à 2 balles, que des mecs qui se prennent pour des grands stratèges, qui ont des idées formidables, et en fait c'est une course, c'est des égos surdimensionnés. Enfin, c'est la comédie humaine, hein, c'est voilà.
Comment tu vois le. À court terme, donc là, il y a eu la dissolution, là, il y a une campagne très courte, enfin, c'est vraiment un peu le mélodrame français. Enfin, nous, en Suisse, on met les lunettes, on va dans le canapé et on mange les pop-corn. Enfin, nous, on peut en rire, effectivement, parce que ça ne nous touche pas, même si, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, ce genre de crises ne sont inéluctables. Elles sont simplement la conséquence des politiques médiocres vendues depuis des décennies. Donc, ça arrivera à toute l'Europe et évidemment, la Suisse finira par être touchée parce qu'on n'est pas plus brillant. Et du coup, comment tu vois que ça se joue un petit peu là, à court terme? C'est-à-dire que tu as 2 semaines, tu auras des résultats, et vraisemblablement, le Front National va avoir la majorité. Comment tu le sens? Est-ce que le nouveau Front Populaire va avoir aussi? Est-ce que c'est vraiment partagé si tu allais parier là maintenant? C'est quoi qui est le plus probable?
Ce qui est le plus probable, c'est une majorité relative côté Rassemblement national. Parce que justement, on parlait du jeu médiatique. Aujourd'hui, le jeu médiatique est de faire croire que le barrage républicain, qui était autrefois un barrage républicain contre les idées du Front National, doit être un barrage républicain contre le Front Populaire. Parce qu'il y a l'AFI, parce que c'est un parti communautariste, islamo-gauchiste, antisémite, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a cette petite musique du bloc bourgeois qui, à chaque fois, finit dans le fascisme, hein, de toute façon, quel que soit. Déjà, le fascisme était là pendant la crise sanitaire, hein, et on a vu la délectation de certains salopards de montrer du doigt les non-vaccinés comme des sous-hommes, comme le danger dans la société. Donc, ça change pas. L'humain, il change pas. C'est un petit matériau faible qui vide ses peurs, qui vide ses fantasmes et qui adore emmerder les autres humains. Hein. C'est vraiment, ça me paraît être la norme de cette espèce. Et donc, aujourd'hui, le bloc bourgeois finit sa course, évidemment, avec l'extrême droite, en disant bah, c'est la droite, c'est des valeurs d'ordre, c'est des valeurs réactionnaires, enfin, pas réactionnaires, on va dire conservatrices, c'est aussi le respect de la République. Marine Le Pen a fait un grand travail pour expliquer que son parti, héritier de l'OAS, héritier de la collaboration, finalement, c'était plus ça, c'est des gens qui sont amoureux de la France, et donc, etc. Ceux qui n'aiment pas la France, c'est les ennemis de l'intérieur, et puis avec toujours cette diatribe, hein, contre l'islam en particulier. Et donc, ça va attirer beaucoup d'électeurs de droite, je pense, auprès du Rassemblement national, avec en plus une parole libérée, hein, des Klarsfeld qui annoncent voter Rassemblement
Ouais, des
National,
rideaux qui
les
tombent un peu.
Enthoven.
Bon, on s'en doutait un peu, hein,
Oui.
certains. Enfin, on le
Oh,
savait
bien sûr,
carrément,
mais
mais au
non,
moins là, ça devient
mais
officiel, tu
maintenant,
vois.
voilà, c'est officiel. Entre le choix entre Front Populaire ou Rassemblement National, alors beaucoup vont dire qu'ils votent blanc, Anne Sinclair par exemple, mais d'autres vont dire, ah non, ah, moi je vote clairement RN, il faut arrêter les bêtises. Et donc, cette dynamique-là, elle est enclenchée, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y aura plus de retour en arrière. Et donc, oui, il y aura une grosse partie de l'électorat qui va aller de ce côté-là, mais il y aura une grosse partie de l'électorat qui va aller du côté du Front Populaire, qui va reprendre la diatribe. Nous faisons barrage à l'extrême droite, c'est nous maintenant, et Macron qui s'est cornérisé tout seul avec sa dissolution, ne voyant pas le Front Populaire arriver. Donc, je pense qu'il y aura une majorité relative au Rassemblement national, avec pas mal de sièges du côté du Front Populaire, et puis un bloc centriste qui va survivre avec Horizon, avec le reste du MoDem, avec voilà, et qui feront la majorité de blocage. Donc c'est clairement une crise institutionnelle qui va s'enclencher. C'est-à-dire, il y aura un gouvernement, mais qui ne pourra rien faire, une cohabitation qui n'existe pas, et un budget invotable en fin d'année, avec bien sûr la faillite provoquée par la Macronie et Emmanuel Macron qui va se poser en sauveur alors qu'il est l'ingénieur du chaos et qui fait qu'on en arrive là. Bon, voilà, mais bon, bah, pour le moment, les gens vont aller voter et puis voilà, nous, on en parlera. Mais c'est écrit, c'est-à-dire, il y aura pas de surprise, je pense pas. Vous me
La
direz, hein,
surprise qui.
vous me ressortirez la vidéo
Ouais.
le 7 juillet, mais
La surprise potentielle, ce serait quoi? Ce serait qu'éventuellement,
une majorité
le
absolue,
nouveau
une
Front
majorité
Populaire.
absolue
Et...
du RN.
Ah, une majorité absolue du RN. Ça serait une surprise. Ou
Ouais.
alors une majorité
Ben oui, parce que là,
relative
du
de
coup.
la droite ou de la gauche, nouveau Front Populaire, ou ça changerait rien. D'accord.
Gouvernement ineffectif et c'est une crise de gouvernabilité. Ou alors, oui, la vraie grosse surprise, ce serait une majorité absolue du Front Populaire, mais j'y crois pas.
Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? On parlait d'avant de la rupture, mais si le Front National avait la majorité pas relative mais absolue, qu'est-ce qui changerait de manière pratique? Parce que ils sont tamponnés atlantistes aussi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que les règles de l'Europe et tout ça, ils pourront pas du tout s'en affranchir. Donc, je sais qu'ils ramènent beaucoup de votes parce qu'ils font des grandes déclarations comme ça, mais est-ce que finalement, même s'il y avait cette surprise-là, ça changerait quelque chose en matière de politique et de situation du pays? Donc là, il n'y aura pas de surprise, ça va être le bordel encore
Il y
longtemps.
aura. Bah, pour longtemps, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est déjà le bordel. Il faut arrêter de croire que on rentre
Non,
dans le
non.
chaos parce qu'il y avait. Non, mais c'est le bordel depuis longtemps. Et c'est simplement que c'est masqué. Et tout ça se fait avec des mensonges feutrés où on explique que, oh là là, il y a eu un accident à 21 milliards d'euros. On ne sait pas où ils sont passés. Voilà, mais c'est le bordel. Sauf que là, une des chances. Finalement, de ça, c'est comme tu disais, les masques tombent, une accélération, puis la promesse du Rassemblement national de faire un audit des comptes publics et de dire bon ben voilà, on va mettre sur la place publique la gabegie, on va vous montrer ce que c'est, comme ça on vous expliquera pourquoi on peut rien faire. Donc c'est la seule avancée, ce sera peut-être un peu de transparence sur la gabegie des comptes publics et sur la folie en fait de l'État français tenu par des cabinets de conseil, puisque c'est ça hein, le problème. Et peut-être déjà ça, il y aura une avancée démocratique par ce biais-là, mais bon, c'est pas non plus dingue, hein.
Merci Alexis Poulain, on bat des records avec toi. C'est ma chaîne là qui a plus de 2000 personnes en live. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant. Voilà, il
Voilà,
semblerait
c'est
quand même que
l'effet.
Alors oui, je sais que c'est pas suffisant pour changer les choses dans un pays. D'ailleurs, souvent j'ai remarqué, par exemple, Asselineau, qui est toujours convaincu parce que ses vidéos, elles sont regardées à des millions de fois, littéralement. Elles sont très riches, elles sont très étoffées, nuancées. Tu apprends l'histoire, etc., etc. Puis du coup, il y a un petit espoir que non, il sera soutenu. Et puis après, tu as les élections. Et puis effectivement, c'est plus petit qu'un pet de mouche. Du coup, il faut vraiment faire attention de ne pas commencer à croire que même quand on a 100, 200, 300, 400 ou 500 000, ou voire même 1 million hein, de gens qui nous regardent sur YouTube, ça va se retranscrire. Des fois, c'est un peu, j'imagine. Ouais.
C'est le colibri, c'est la part du colibri. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, c'est encore pire. Donc il y a une nécessité de le faire. Voilà. Et puis il y a aussi, je pense, la constance, c'est-à-dire de dire on entre dans des temps difficiles, on n'est pas dupes non plus, hein, les algorithmes
Non.
jouent contre nous, mais on peut jouer sur le temps long et prouver que l'audience s'agrège. Que les discussions aussi se font. Enfin, moi, je vois bien qu'il y a une réalité par rapport à nos contenus qui sont extrêmement partagés, discutés, et que ça fait quand même avancer les choses, y compris au sein
Oui.
d'organigrammes politiques. Parce que ça devient caricatural, ce que je disais, quand tu regardes les chaînes d'info en continu. Les mecs en étaient à dire que Alexis Corbière, c'était un bon gauchiste parce qu'il écoutait Michel Sardou. Enfin, c'est
Bah.
en rigolant, mais il le disait quand même, avec Marlène Schiappa, quoi. Enfin, voilà, donc c'est à un moment, qui regarde ça? Qui regarde ça? Moi, je le regarde pour en rigoler. Et effectivement, c'est drôle, mais regarder ça toute la journée, premier degré, pour s'informer, non, faut arrêter les conneries. C'est pas de la formation, quoi.
C'est quoi? Bon, ça fait un peu people, mais c'est quoi cette histoire avec la fronde LFI, le gars que tu viens de nommer là et qui ont pas été nominés, puis un petit groupe, enfin, c'est quoi cette petite histoire?
Que tu as un groupe au sein de la FI qui a décidé de faire un peu cavalier seul et surtout d'en finir avec l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon en disant il est temps de passer les rênes et ils veulent un peu griller des étapes. Et la France Insoumise qui a décidé de dire non, mais nous, c'est très bien, vous avez eu votre chance, vous avez fait 2 ans. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est plutôt investir des gens qui viennent des quartiers, qui sont des travailleurs sociaux, qui vont avoir ces dossiers-là et qui vont peut-être plus travailler que faire des médias. Mais bon, c'est tous les partis. Enfin, voilà, à partir du moment où tu as une structure, qu'elle soit privée, publique, que ce soit un parti politique ou que ce soit, avec des enjeux de pouvoir,
Ouais, c'est ça. On sait pas comment
avec
gérer ça.
des gens qui se mettent ensemble, au niveau micro comme au niveau macro, tu auras toujours ces histoires de trahison, tu auras toujours ces histoires d'ambition, tu auras toujours ces histoires de voilà, c'est l'histoire humaine. C'est chez les macronistes en ce moment, c'est 10 fois pire. Sauf qu'ils essayent de ne pas trop en parler. Mais voilà, il n'y a pas un parti. Regarde les Républicains. Et eux,
On va revenir après
elles
sur
auraient
ça.
explosé à la
C'est
tête
rigolo.
avec Ciotti. Mais voilà, c'est.
Ouais. Ok. Et alors, une fois que. Alors, donc, vraisemblablement, si tu dis, si je comprends bien, c'est qu'il y aura une majorité relative ou pas du RN. Et du coup, ça va être à eux de définir qui est le Premier ministre. C'est ça? Parce que quand à l'Assemblée, c'est la majorité de l'Assemblée qui définit le Premier ministre, chez vous, je crois comprendre.
D'un côté ou d'un
Donc, ce
autre.
sera Bardella,
Et...
vraisemblablement, le Premier ministre français.
Non, lui a dit. Non, lui, il met des conditions. Comme il sait très bien que c'est un piège et que si jamais il avait une majorité relative, il a dit, écoutez, moi, je suis Premier ministre seulement si on a la majorité absolue. Sinon, je vais être un employé de Macron, il va me maltraiter comme les autres. Donc, c'est hors de question. Donc, il a mis ses conditions. Donc, si c'est une majorité relative, je ne sais pas qui ils vont mettre. Ce sera rigolo de voir qui ils vont mettre. Mais c'est là, c'est en. En quoi c'est un jeu de dupes et en quoi bah, toute la question va être, un, de la participation du taux d'abstention et deux, des triangulaires ou pas et du
C'est
poids
quoi une
qu'aura le.
triangulaire? Excuse-moi, je suis un culte.
Alors, législatif, c'est une élection à deux tours. Donc, tu as un premier tour où tu as plusieurs candidats et puis tu as un second tour où globalement tu as deux candidats et donc il faut en choisir un. Mais pour se qualifier au second tour, il faut faire 12,5% des suffrages exprimés au premier tour. Et donc, il se trouve que dans plusieurs situations, tu peux avoir trois candidats qui se retrouvent au second tour,
D'accord,
parce
je
qu'ils ont tous
comprends.
les trois fait 12,5%. Plus la participation est haute, plus tu as de chances d'avoir des triangulaires. Et donc une triangulaire, tu vas avoir, bah, par exemple, un macroniste, un mec du Front populaire et un mec du RN. Voilà. Et donc là, ça change un peu la donne. Parce que tu te dis, est-ce que les voix de l'un vont se reporter sur l'autre et en quelle proportion et comment? Et après, tout ça, c'est des dynamiques locales. Ça n'a rien à voir avec les jeux d'appareil au national. C'est souvent des accords qui se font en local pour faire gagner un tel ou un tel. Et ça peut changer les choses.
Alors, après, au deuxième tour, des trois, s'il y en a trois, donc techniquement, il pourrait en avoir même quatre ou cinq, s'il y avait 12,5, si je comprends bien. Mais
Non, c'est
c'est
rare,
vrai,
c'est
évidemment,
rare.
c'est plus rare, mais mathématiquement, c'est moins possible. Mais du coup, c'est le premier des deux ou des trois, ou plus, qui finit par avoir le siège à l'Assemblée nationale. C'est ça la règle?
C'est le premier
C'est
qui
le
est
premier.
élu, voilà. Ouais.
Donc, de nouveau, il y a beaucoup de perdants, quoi. Moi, j'étudie beaucoup les systèmes démocratiques. Et l'élection, pour moi, produit beaucoup plus de perdants qu'elle produit de gagnants. Et donc, d'insatisfaction, et donc de polarisation. Et donc, nous rapproche aussi, en termes d'énergie, de la guerre, quoi. Et puis après, il y a le terreau qui est fait pour que tout le monde se tape dessus et surtout que personne ne s'entende. Ce qu'on voit absolument partout, notamment dans les médias. Tu en as parlé de long en large. Petite parenthèse sur Birkenstock, parce que ça c'était en Suisse, c'était une bonne blague. Que les Suisses, en fait, si tu veux, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, hein, mais ça c'était une expression française plutôt. Ils voudraient dire qu'ils ont gardé leur neutralité, mais en même temps, ils veulent s'aligner un peu avec le camp des gentils, c'est-à-dire les Atlantistes. Voilà. Alors du coup. Du coup, bah, ils prétendent certaines choses, mais il y a beaucoup de politiciens qui font ça, qui voient le monde un petit peu de manière suspendue, sans beaucoup de racines. Alors du coup, ils organisent un grand sommet avec plein de gens importants. Et puis, tu sais, en Suisse, on a cette capacité d'accueil, hein, c'est propre, hein, là où on amène les gens, ils dorment bien, ils mangent bien, etc. Et puis à la fin sort un rapport que presque tout le monde signe ou pas, tout le monde s'en fout un peu d'ailleurs. Et puis nos médias disent finalement que tout dépendra de la Russie à partir de là. On ne s'en serait pas douté au début. Comment tu as vu et comment tu as suivi cette mascarade? Ouais,
National.
non, plutôt international, international.
Ouais, ben, on a la même chose. Nous, en France, tout est ingérence russe depuis quelque temps. Les punaises de lit, le fiasco des JO, Emmanuel Macron, enfin bon, c'est impressionnant. Comme si il fallait absolument revenir dans une guerre froide, ressortir le rideau de fer et expliquer que la Russie de Poutine, c'est la Russie soviétique, c'est le KGB, c'est la même chose, et que nous sommes des ennemis de facto, nous les démocraties, du régime russe. Ça reste à prouver, hein, quand vous avez des gens qui disent ça, vous leur dites, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, généralement, parce qu'ils ont attaqué l'Ukraine. Bon, d'accord, qui était une démocratie. Oui, comme les nôtres, on va dire, mais avec une histoire qu'on veut là encore tronquer sur le pourquoi de cette attaque et sur les accords de Minsk et sur un pays qui a toujours été entre deux mondes, hein, le monde slave et le monde européen. Alors, évidemment, hein, tout le monde condamne l'envoi de chars sur un pays souverain, particulièrement une puissance nucléaire qui s'attaque à son petit voisin. Mais quand on voit ce qu'il en est depuis 2 ans, c'est devenu une guerre de position, une guerre de tranchées, avec derrière quand même des intérêts financiers évidents. Enfin, il faut voir les milliards qui sont déversés en Ukraine de manière quasi quotidienne. Vous avez le Salon de la Défense en ce moment à Paris, Eurosatory. C'est la première fois qu'il y a un pavillon ukrainien. Oh, incroyable! Il faut dire qu'ils ont beaucoup d'argent pour acheter beaucoup d'armes et que c'est un terrain d'expérimentation des armes du futur, de l'IA, des armes qui vont être autogérées pour aller tuer de l'humain, etc. Donc on essaye plein de trucs. C'est aussi un magnifique showroom à ciel découvert. Pour les constructeurs d'armes, c'est génial une guerre, parce que c'est le seul moment où vous montrez à vos acheteurs comment ça fonctionne bien en situation. Voilà. La guerre en Irak, ça servit à ça aussi, pour beaucoup. Et donc, alors, on parle Mirage, on parle F-16, on parle canon César, on parle machin. Et puis, tout le monde est très content, hein. Les dépenses en armement ne font qu'augmenter. Et c'est un secteur qui va artificiellement, maintenir une croissance. Mais la question ukrainienne, c'est d'abord une guerre par procuration des États-Unis pour semer le trouble sur le continent européen. C'est pas autre chose. Avec toujours l'aspect prédation sur les ressources. Et là, il s'agit du gaz et du blé. C'est pas le pétrole cette fois-ci, c'est le gaz et le blé. Et donc, les États-Unis maquillent tout ça de la même façon: défense de la démocratie, défense des libertés, lutte contre les autoritarismes, le bien, le mal, etc. Non, stop. Les États-Unis sont en Ukraine depuis longtemps. Il y a des dossiers qui sont sortis par la presse américaine, hein, sur les bases de la CIA, qui étaient nombreuses, sur le renseignement, sur les demandes de la Russie de ne pas avoir un membre de l'OTAN à sa frontière, en l'occurrence l'Ukraine. Enfin, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Et on fait ça. Et les Européens qui font tête baissée dans le piège américain. Pourquoi? Parce que nos leaders sont des young leaders des fondations américaines, ont été formés à vouloir être les bons élèves vis-à-vis de Washington. Il n'y en a pas un qui va à l'encontre de la politique internationale de Washington. Il n'y en a pas un qui va à l'encontre de la politique économique d'hégémonie de
Mais est-ce
Washington.
que
Quand
pour eux,
on est
c'est pas
là à
aussi
ce...
une caution pour ces gens, pour eux-mêmes, pour leur intérêt, une caution de dernier recours? C'est vraiment, ça part vraiment trop mal. L'agenda dont tu parles depuis tout à l'heure, notamment pour Macron, si toutes ces stratégies du chaos ne fonctionnent pas, le chaos
Bien
ultime, c'est
sûr.
celui de la guerre, non? Ok.
Présidentiel. Il n'est plus président depuis fin mai. La guerre, c'est les pleins pouvoirs. La guerre, c'est l'état
On est
d'urgence.
d'accord.
La guerre, c'est la peur absolue. Et c'est l'assurance de rester au pouvoir pendant longtemps. Et puis, c'est des règles d'exception, de censure encore plus poussées que ce qu'on a actuellement, de propagande encore plus poussée que ce qu'on a actuellement, de mise en prison des oppositions, de criminalisation des oppositions. Enfin voilà, oui, c'est formidable. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, quand t'as plus rien. Et c'est pour ça qu'ils y vont gentiment,
Ou en tout cas qui ferme
en
pas le...
expliquant qu'on n'a pas le choix. Non, mais qu'ils nous la vendent. À chaque fois, il faut écouter les paroles de Julian Assange sur le but des États-Unis, quand c'était l'Afghanistan, par exemple. C'est pas de gagner la guerre, c'est d'avoir une guerre quelque part pour continuer de vendre
Ouais,
des armes et
perpétuel.
puis continuer de vendre la guerre comme une guerre. Donc, on le voit bien. Il faut voir les efforts qui sont donnés par les propagandistes des chaînes télé pour nous vendre la guerre, pour nous expliquer qu'il faut absolument. Là, vous avez quand même Stoltenberg, le responsable de l'OTAN, qui dit qu'il faut vendre plus d'armes pour la paix en Ukraine. C'est 1984, la guerre, c'est la paix. Mais on y est vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous sépare de la dystopie, de ce qui avait été écrit dans les années 40. On est dans ce moment-là de mensonge absolu, de perversion du langage, et où, vous savez comment ça fonctionne dans 1984, c'est que vous avez la guerre entre les blocs, Eurasia, etc., et des bombes explosent, des missiles arrivent, on ne sait pas d'où, mais systématiquement, c'est l'ennemi, et l'ennemi, il change tous les 40 ans à peu près. Mais il y a tout le temps la guerre pour que la population obéisse. On y est vraiment, mais de manière terrible, parce que j'entends peu, et c'est toujours le cas, les voix pacifistes sont toujours traitées de pitulards, de collaborateurs, de traîtres. Ça a toujours été le cas. Mais la guerre, c'est une abomination. Ça sert à rien. C'est quelque chose qui fait que vous ressortez avec des jambes en moins, un visage en moins, une vie en moins, pour rien. À la fin, c'est quoi? C'est un partage de valeurs entre des gens qui n'ont jamais fait la guerre et qui vont récupérer de la thune. Et c'est des frontières qui vont changer de toute façon dans les années qui viennent. Voilà. Sauf que dire ça, c'est être un traître. Ah ouais, super. Moi, j'en peux plus des BHL, j'en peux plus des mecs qui sont là à dire « Il faut absolument, c'est nos valeurs, défendre. » Mais allez-y, les gars, allez vous faire cramer. Allez-y et fermez vos gueules. Voilà.
Surtout que là, la suite des événements n'est pas glorieuse non plus, étant donné que c'est quand même une puissance nucléaire, la Russie. Donc, on comprend même pas
Oui.
vraiment le endgame, si tu veux, c'est-à-dire.
Mettra la première faute, c'est-à-dire est-ce que pousser Poutine à la faute? Tiens, voilà, crime de guerre, alors il y a eu Boutcha, il y a eu machin, et dire jusqu'où on peut pousser. Et là, l'idée de l'escalade, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir des frappes sur le territoire russe, que là, Blinken vient de donner un feu vert pour des frappes en Crimée également, et donc de dire. Quelle va être la réponse russe? Est-ce qu'il va aller sur la ligne rouge, armes chimiques, armes nucléaires, etc., et dire, bon, bah, ça y est, là, on ne peut pas laisser passer ça, et on lui fait une Saddam Hussein. Sauf que la Russie, ce n'est pas l'Irak, Poutine, ce n'est pas Saddam Hussein, et qu'il est en train de nouer des alliances. Il est en Corée du Nord en ce moment, il a fait une alliance, et depuis longtemps, avec la Chine. Il y a tout le monde des BRICS aussi qui n'est pas hostile à la Russie, pas du tout. Et que cette guerre régionale, qui est la guerre du Donbass, qui est la guerre de la Crimée, qui est la guerre de l'Ukraine, n'a pas à devenir une guerre mondiale, sauf à la demande des États-Unis. Et c'est ça qui est terrible, c'est de voir que personne ne veut aujourd'hui dire les choses. Et que vous avez en majorité invité dans les médias des gens qui sont des pions atlantistes qui vendent la guerre, qui sont là pour dire oui, on ne peut pas laisser passer ça, et on fera la paix quand Poutine aura perdu ou qui sera en situation de ne pas négocier quoi que ce soit. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire combien de morts en plus? Et ces gens qui parlent en fait de vie humaine comme si elle n'existait pas, en parlant d'objectifs stratégiques, de machin, moi, ils me font vomir, en fait. Ils me font vomir. C'est des gens qui n'ont aucune humanité. C'est exactement les mêmes qu'on entend sur Gaza, à expliquer
Ouais,
qu'il y a des victimes
on est
collatérales,
là-dessus.
que c'est des boucliers humains, etc. Mais bordel, comment on peut être aussi ignoble?
On utilise souvent le terme atlantiste. Comment on pourrait le définir? Est-ce qu'il y a vraiment une idéologie atlantisme ou simplement c'est que des intérêts d'une oligarchie?
Non, je pense qu'il y a des intérêts atlantistes. Clairement, l'idée, c'est d'empêcher l'Europe d'être une puissance et une Europe continentale. C'est-à-dire que si vous aviez une Europe en paix, avec une alliance entre l'Allemagne et la Russie, avec une énergie peu chère et une industrie florissante, les États-Unis ne peuvent pas jouer à armes égales. En plus, on a une société quand même beaucoup plus apaisée que les États-Unis, avec des mesures sociales qui évitent hein, d'avoir autant de disparités qu'aux États-Unis. Et cette Europe-là, elle est un danger existentiel pour l'hégémonie américaine. Donc, il faut absolument qu'elle ne voie pas le jour. Et le projet européen, qui est un projet fédéraliste, ne va pas dans le bon sens, puisqu'il va dans le sens d'une mise sous tutelle plutôt que d'une émancipation. Émancipation qui passerait justement par des accords de paix et par le fait de dire, écoutez, on ne va pas se faire la guerre vu qu'on est voisins. Et le fait de dire que parce qu'il y a l'Atlantique et parce qu'il y a cette histoire, bah, tout ce que doivent les États-Unis à la France, Lafayette, enfin la guerre d'indépendance, tout ce que doit la France aux États-Unis, le débarquement, le plan Marshall, etc., fait qu'on veut absolument couper tout ça parce qu'il y a eu la guerre froide, parce qu'il y a eu la Russie soviétique, parce qu'il y a eu les guerres d'empire. Et donc on a choisi un empire, on a choisi l'empire américain. Mais on ne veut pas faire l'empire européen. Ou alors, si on veut le faire, on part très mal. On part très mal. L'Europe de la défense, c'est simplement l'Europe de l'OTAN, hein, qui va dépenser davantage pour être sur le côté otanesque des choses. Mais c'est des politiques qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont jamais remises en question, parce qu'elles vont de soi d'une certaine façon. Et pourtant, faut se rappeler que dans les années 2000, la Russie faisait partie du G7, ça s'appelait G8. Il y a eu un moment d'ouverture où Vladimir Poutine a essayé de jouer le jeu et où les États-Unis ont vite compris qu'il était trop malin et qu'il fallait surtout pas qu'il rentre. Et donc il fallait le recorneriser et en faire un repoussoir et un pays ennemi des intérêts européens. Mais ça n'a pas été le cas pendant quelques années. D'ailleurs, il faut voir comment Macron reçoit Poutine à Versailles lors de son élection en 2017. Voilà.
C'est-à-dire, c'était comment?
Ben, c'était juste après son élection, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Versailles en grande pompe, en expliquant que nos pays sont partenaires, que c'est super, mais que quand même, RT, c'est de la propagande, qu'il faut faire attention, en lui faisant un peu la leçon gentiment, mais en le recevant à Versailles. Et donc, pendant des années, il y a eu ce jeu-là qui a été arrêté net. À partir du moment où les démocrates ont repris la main sur le camp républicain et sur Trump. Et on voit bien que les démocrates ont toujours eu cette politique hégémonique de guerre aux frontières de manière très poussée, très poussée. Obama n'est pas un président de la paix. Il a eu le prix Nobel de la paix. C'est quand même l'homme de la guerre des drones où il y avait quand même. On lui doit Daesh, on lui doit beaucoup de choses. Et ça, personne ne veut l'entendre encore une fois. Quand vous dites ça, c'est oh là là, c'est pas possible de dire des trucs pareils. Ben si, il suffit de s'intéresser un peu à la politique internationale et à la géopolitique.
Alors moi je me rends bien compte depuis très nombreuses années, c'était Chomsky que j'avais commencé à lire à l'époque,
Ouais.
qui d'ailleurs Chomsky est dans un hôpital au Brésil, ça fait 6 mois qu'on n'entend plus parler de lui, il a 95 ans, donc on va gentiment le laisser s'en aller et le remercier pour tout le travail qu'il a fait, mais qui m'a attiré l'attention et qui m'a montré que le vrai danger pour l'équilibre et la paix dans le monde, évidemment, c'était les États-Unis. Ça reste l'organisation la plus dangereuse du monde. Du coup, moi, j'ai tendance à voir les BRICS comme une force d'équilibre. Mais en même temps, quand je regarde les BRICS, finalement, elles veulent juste équilibrer, mais elles veulent jouer au même jeu. Du coup, là non plus, à long terme, je ne vois pas d'émancipation via les BRICS. Et en plus, actuellement, c'est quand même des nations autoritaires aussi.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Attention, aujourd'hui, le modèle, même s'il est imparfait et loin de là, le modèle qui fait envie, ça reste le modèle américain.
Envoyé à qui? Je veux
L'idée
dire, au
de.
sud global ou à la
À
population
tout
du
le
monde?
monde, à tout le monde. Mais tu vas en Inde, il y a Bollywood, certes, mais les mecs, ils connaissent Rambo. Tu vas même en Iran, qui n'aime pas beaucoup les États-Unis, ils connaissent tous les héros du soft power américain. Est-ce que tu peux me citer un héros de Bollywood ou un héros de film russe?
Non.
Voilà. Donc ce modèle-là hégémonique, il est toujours d'actualité. Les gamins dans plein de coins du monde, ils se rêvent Rocky Balboa, ils se rêvent Rambo, ils se rêvent ce genre de truc. Mais il n'y a pas eu encore, même si on voit du côté asiatique, le soft power fonctionne très très bien. Hein. La Chine notamment mise beaucoup dessus, mais vous avez un pays comme la Corée, par exemple, Corée du Sud, pas Corée du Nord, qui a un poids énorme dans les imaginaires, avec la K-pop, avec des œuvres de fiction au cinéma ou en série, etc. Le Japon aussi a été très fort. Mais globalement, aujourd'hui, la culture hégémonique, celle qui fait envie, c'est celle de la démocratie, c'est celle de la liberté. C'est celle de ce pays du melting pot où tout est possible que sont les États-Unis, même si il faut mettre des gros bémols là-dessus. Mais le pouvoir hégémonique, il est aussi le pouvoir dans les esprits et le pouvoir d'attraction. Et l'attraction, elle est de ce côté-là. Comme tu le dis, les BRICS aujourd'hui sont des pays qui, certes, se mettent ensemble, certes, cherchent à s'émanciper, mais dont le modèle social n'est pas aujourd'hui un modèle de liberté. Et je ne dis pas que les États-Unis, c'est la liberté, attention, c'est la liberté contrôlée, mais il y a une grosse différence entre le Parti communiste chinois et puis le jeu politique américain entre deux grands partis et tout ce qui tourne autour. Même si tout le monde, quel que soit le côté, a embrassé l'idéologie capitaliste et financière. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'il y aura deux places financières? Est-ce qu'une autre place financière va jouer contre l'hégémonie de Wall Street? C'est toute la question, en fait, avec la monnaie BRICS, avec les cryptos, avec voilà, le jeu monétaire qui va être le plus important à suivre dans les années qui viennent.
Oui, et de nouveau du sombre. Petit passage en Palestine. Là, je t'ai surpris en bien par le LFI de nouveau, qui est le seul, et c'est là où je me dis, bah, ils ont un peu de courage quand même, parce que politiquement, je ne crois pas que défendre la cause palestinienne, mais peut-être c'est en train de changer, vu l'énormité du génocide, du massacre et des mensonges sionistes, notamment, de s'en saisir comme ça et de porter politiquement la défense des Palestiniens devant l'opinion publique, aussi une des raisons où, quand on cherche vraiment des alliés, et ça fait longtemps que la question palestinienne, elle est dans mon cœur, mais que même Finkelstein, hein, qui est un grand analyste, avait perdu espoir. C'est impressionnant de voir quand même des partis politiques oser se saisir de cette patate pour le coup brûlante. Et comment tu sens ce sujet-là politiquement, le sujet de la Palestine par rapport au vote?
Personnellement, un dossier défendu par les extrêmes gauches, hein, NPA, Lutte
Oui,
ouvrière,
c'est ça,
etc., la
très en
gauche
marge.
internationale, oui, ou le Parti communiste même, enfin, la fête de l'UMA, il y a toujours eu la cause palestinienne en guest star d'une certaine façon, mais la FI suit cette thématique, sauf qu'elle a poussé la défense très loin sur une base très simple, le droit international. C'était pas compliqué, hein. De dire, vous savez, ce qui se passe à Gaza est un crime contre
Une
l'humanité, c'est un
occupation
génocide.
illégale.
D'ailleurs, on en discute au niveau international. Et simplement de dire ça, c'était un scandale. C'était un scandale, c'était antisémite,
Ouais,
c'était
c'est
ce que vous
ça.
voulez, mais
C'est antisémite,
le
selon
fait
la.
est que les instances du droit international sont en train de discuter de la qualification des crimes de guerre d'Israël sur les populations palestiniennes, comme des crimes de guerre du Hamas sur les populations israéliennes. Et de la qualification en génocide ou pas de ce qui s'est passé à Gaza. Le fait d'avoir voulu recentrer le débat sur le droit international était vu déjà comme une provocation. Ça en dit long de la propagande. Ça en dit long aussi du courage qu'il faut pour arriver à tenir bon contre toute la calomnie qui se déverse sur vous parce que vous tenez un discours humaniste et que vous dites qu'il y a là des crimes de guerre qui doivent être dénoncés comme tels et un génocide qui doit être dénoncé comme tel. Voilà. Et puis vous avez les atermoiements de toujours les mêmes, hein. La France qui n'a pas voulu reconnaître un État palestinien, alors même que des pays européens comme l'Espagne, l'Irlande et d'autres, la Belgique, je crois, ont reconnu un État palestinien. Et notre cher Emmanuel Macron était là. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment.
La
Ce sera
Suisse,
jamais le
c'est
moment.
pareil, hein. Même, enfin, c'était notre Conseil
Oui, mais
des
alors la
États qui a
Suisse, on peut
voté
encore.
contre aussi.
Voilà. Donc, c'est toujours la même
Comment
chose, en
tu
fait.
vois la Suisse d'ailleurs, toi qui regardes un peu tout ça? Bon, on a un peu cette culture de la discrétion. C'est pour cacher la merde au chat, je te rassure. Il y a quand même ce qui est bien par rapport à vous, c'est moins la culture de l'ego et de l'être humain, enfin de la tête qui sort, de la personnalité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais néanmoins, évidemment, tu vois bien qu'on est très opportuniste, on cache beaucoup de choses et puis on s'arrange là quand il faut s'arranger, avec qui il faut s'arranger. Enfin, je ne vois pas vraiment de morale ou de, tu sais, de compas moral, quoi qu'il en soit, tu vois ce que je veux dire. Mais comment tu nous vois,
Ah.
enfin comment les Français perçoivent la Suisse? Et toi, je parle des Français conscients et
Ben, il y a
politisés,
toujours.
évidemment.
Fait de dire qu'il y a une autre démocratie en Suisse, la démocratie directe, même si beaucoup de Français ne se rendent pas compte du jeu de dupes aussi qu'est la votation, avec des enjeux d'argent, de campagnes d'information et de désinformation, le fait qu'il y ait une fatigue du vote aussi, mais ça fait rêver un peu. De dire, ah ben oui, mais là au moins, tous les sujets sont mis sur la table, on a un vote direct, on a l'impression qu'on peut s'entendre. Voilà, donc il y a cette vision fantasmée de la votation, de la démocratie directe. Qui n'est pas exactement ça, hein, tu me corriges, mais il y a quand même des limites à la votation. Et puis, l'autre vision, c'est une société qui fait envie dans le sens où il n'y a pas cette hystérie dans le débat public qu'on a en
Ouais, il n'y a pas
France. On se
l'hystérie.
dit peut-être qu'on peut se mettre à l'abri en Suisse
C'est moins la panique.
d'une certaine façon, parce que la société est plus apaisée. parce qu'il n'y a pas ce côté un manager toxique qui gère une entreprise qui est en train de faire faillite en virant tout le monde, quoi. Donc, y a un côté un peu idéalisé de la Suisse comme pays d'accueil, pays de repos, pays apaisé et pays de liberté. Voilà.
Je crois que ça a plus à voir avec la taille, hein. Quand même, on est un petit pays, on arrive à 8
Aussi.
millions, je crois. Moi, je pense qu'il y a quand même un facteur taille qui fait que si on est trop gros comme pays, comme nation, peu importe, et ben, au bout d'un moment, l'autoritarisme va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, on a aussi un pays qui fonctionne. Nos États, à nous, ce n'est pas la Suisse, hein, c'est la Confédération, la Suisse. Les États, c'est des cantons. Donc, tu vois, il y a 2 millions, par exemple, dans le canton de Vaud, ou un peu plus, je crois.
C'est comme Paris, c'est-à-dire c'est des villes en
C'est
fait à
ça.
l'échelle française, des grandes villes. Donc évidemment qu'au niveau local, c'est pas pareil qu'au niveau national. Et puis je crois qu'il y a la géographie aussi qui fait que la Suisse, elle est placée là. C'est un pays de montagne, pays d'histoire aussi qui a depuis longtemps choisi le mode de la Confédération. Donc c'est politiquement même, philosophiquement, la vue du débat politique n'est pas la même qu'en France, clairement pas.
Mais il y a aussi, hein, dans nos médias et ailleurs, ces mêmes lignes rouges qui existent et qui sont maintenues par le pouvoir, qu'il soit politique, médiatique ou économique.
Oui,
Ça,
après,
on le
c'est...
reconnaît assez vite. Hein. On n'a pas trouvé la formule magique non plus. Mais effectivement, moi qui pense toujours la démocratie verte comme un continuum, j'ai l'impression qu'effectivement, on a un peu plus de démocratie, mais elle est hautement imparfaite, encore à améliorer. Ça, c'est clair. Bon, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu espères pour l'avenir, pour ta chaîne, pour les médias et pour la France peut-être? La France pour toi c'est quelque chose autant moi je suis pas très nationaliste, tu vois. La Suisse j'en ai un peu rien à foutre. Mais en même temps je peux comprendre que on peut s'identifier ou on peut essayer de rationaliser pour se mettre ensemble, à hauteur d'une nation. Mais en même temps, on voit très bien la dérive possible du nationalisme assez vite, c'est on est meilleur que les autres, etc., etc. D'ailleurs, à mon avis, le RN joue beaucoup là-dessus. Mais qu'est-ce que tu espères pour la France, Alexis Poulain?
Moi, j'espère la justice. Je pense que beaucoup de gens l'attendent, la justice. C'est ce qui manque, c'est ce qui fait qu'il y a cette colère qui s'exprime. C'est l'absence de justice, des gens qui sont coupables. Et je ne parle pas là des petits délinquants, je parle des grands délinquants, de ceux qui mentent, manipulent, sont corrompus et qui sont visiblement intouchables. Donc cette justice-là, déjà, ferait un bien fou à notre pays. Visiblement, elle est aujourd'hui hors d'atteinte. Ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas le cas. Donc d'abord de la justice, ensuite de la justice dans le traitement des uns et des autres, du respect. On ne peut pas faire un pays avec toute une partie de la population qui va passer son temps à cracher sur une autre partie de la population. Ce qui s'est passé pendant le Covid a montré la noirceur de l'âme humaine sur des personnes qui sont les mêmes, mais parce que non, non injectées, non vaccinées, donc attention, danger, donc attention, machin. Là, vous avez la même chose, avant et après le Covid, sur l'islam. On ne peut pas, en France, continuer à faire son beurre politiquement en crachant sur une communauté de fidèles, de croyants, ou simplement de gens qui ont cette culture-là, qui ne sont pas croyants, voilà, qui vivent dans une culture, une double culture, qui n'a rien de mal, et dire que c'est eux l'alpha et l'oméga de tous les problèmes d'un pays. Ce n'est pas possible, ça. Donc il faut aussi dénoncer ce racisme à peine déguisé, qui marche bien, hein, malheureusement, puisque c'est un des trucs qui fonctionne le mieux. Donc le respect, la justice. Et puis le calme. Arrêtez d'avoir des managers toxiques qui passent leur temps à être hyperactifs et à faire des réformes inutiles dans un pays qui fonctionne, où il suffit simplement d'ajuster à la fois les dépenses publiques, l'audit il est nécessaire, ça j'en suis d'accord, et puis où est-ce que est pris l'argent, la collecte de l'impôt. Non mais vous vous rendez compte qu'on a la TVA, on a les impôts locaux, on a les impôts sur le revenu, on a des impôts cachés en veux-tu en voilà, on a des contributions sociales, on a des machins, et on a un hôpital et une école en ruine. Mais comment c'est possible? Où va la thune? Ça me semble être une question essentielle.
Clairement.
Donc, à partir du moment où on a ces trois choses, le respect, la justice et un audit, avec une transparence du coup démocratique sur cette attribution des richesses, je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on voit bien que le débat, je parlais d'hystérisation, bah, il n'est pas du tout là-dessus. Il est sur la haine des riches contre la haine des musulmans, contre attention, oui, mais vous comprenez, on peut pas parce que machin, et toujours des donneurs de leçons qui devraient être en taule. Et là, c'est pas possible, quoi. C'est le degré en fait de colère, il est corrélé à cette absence de justice, je pense.
Là, il y a 2 semaines, on a eu des jeunes militants pro-palestiniens qui occupaient des bâtiments de l'université, notamment de Lausanne. J'étais très impressionné par le degré de politisation, mais de co compréhension et de connaissance de ces jeunes. J'ai vu quelques sondages suite aux élections européennes. La jeunesse, ça, est-ce que c'est un point d'optimisme du côté français?
C'est un des paris de la France insoumise, c'est d'être la France de demain. Les électeurs jeunes n'ont pas du tout les mêmes votes que les électeurs âgés. Et je ne veux pas faire de guerre des générations, mais il y a un profil quand même de vieux macronistes réels, de gens qui ont une vision du monde qui n'est pas la même que quand ils avaient 20 ans. Tous ces trotskistes qui sont devenus de fervents défenseurs de Macron, enfin voilà, ce genre de personnages. Alors que les jeunes, eux, se politisent et se politisent sur les cases dites extrêmes de l'échiquier politique, et à droite et à gauche, parce qu'ils ont envie de changement, parce qu'ils voient bien que derrière la mainmise d'une certaine respectabilité, raisonnabilité, enfin, on ne peut pas filer les clés d'un pays à des gens qui vont mourir dans 5 ans, 10 ans. Il faut filer les clés d'un pays à ceux qui vont avoir une vie devant eux. Aujourd'hui, on a, et regardez, tous les problèmes de la société, ils découlent aussi de cette psychose-là. La peur de mourir, le fait aussi d'en vouloir aux jeunes. On ne fait rien pour les aider. On les fout en uniforme, on dit que c'est eux le problème, mais est-ce qu'on les aide pour l'accès au logement? Est-ce qu'on les aide les étudiants font la queue aux banques alimentaires. Est-ce que Macron a fait quelque chose? Il a fait le repas du Crous à 1 euro. Ok, super. Et puis après, c'est démerde-toi. Dans le monde de l'emploi, on les maltraite. Enfin, il y a un vrai problème sur le traitement de la jeunesse et double problème, la démographie. On est des pays vieillissants. Tous les pays européens sont des pays vieillissants. Il n'y a pas de renouvellement démographique. Et donc, ce double problème fait que oui, on a une vision du monde de pays vieillissants, de pays finissants aussi, d'où la mise sous tutelle américaine. Et tout est vu sous ce prisme-là, avec l'empêchement de forces nouvelles d'émerger et la Oui, la peur de la jeunesse, enfin, on le voit bien, il y a ce côté, le jeune est forcément quelqu'un qu'on doit soit mettre en uniforme, soit contrôler, mais certainement pas émanciper davantage, parce qu'il est déjà bien émancipé. Donc c'est un vrai problème.
Les JO, ça.
Et
Ouais,
quand tu vois que le représentant de la jeunesse, c'est Gabriel Attal, tu te dis, on a un vrai grave problème, effectivement, enfin, du
ah
côté
oui, c'est un
macroniste,
bel
quoi.
exemple, effectivement. Comment s'annoncent
Voilà.
les JO? Est-ce que la clique a été faire sa petite baignade dans la Seine?
Alors j'ai là un échantillon de l'eau de la Seine que je vais boire pour vous prouver qu'elle est tout à fait baignable. Non, bah non, mais ça va être un fiasco terrible. Et tu dis ça et les gens disent c'est un traître, il est anti-France et tout. Je dis, les gars,
Pourquoi?
ils ont encore fait la. Mais parce que il faut être fier des JO. Il
Ah,
faut être. Enfin, en
ok,
gros,
sous
t'as pas
cet
le droit.
angle-là,
Tu sais, c'est
oui,
l'amusement obligatoire.
fierté
C'est l'amusement
nationale.
obligatoire. Bon. Moi, je suis pas fan de sport. Le foot, c'est pas mon truc. Les JO, ça a jamais trop été mon truc. Après, je trouve ça génial pour les gamins, célébration du sport. Mais alors, qu'on arrête de mettre des sponsors comme Coca-Cola et McDonald's,
Pas faux.
qu'on en fasse vraiment une fête du sport. Et puis derrière, le côté, c'est une grande fête. Mais une fête pour qui? Pourquoi? Comment? Enfin, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il faudrait faire partie de cette fête si c'est pas ma fête, si c'est pas mon truc qui me plaît, quoi, tu vois? Donc, ce côté obligatoire de la liesse populaire sur un truc qui bah, ne plaît pas à tout le monde, hein, disons-le. Non, après, je trouve ça très bien pour ceux qui aiment ça. C'est super, les JO. Et j'espère que ça va bien se passer parce que ce serait catastrophique que ça se passe mal. On n'a pas envie que ça se passe mal, évidemment. On a envie d'avoir des belles images, de beaux records, des sportifs qui vont passer de beaux messages de respect. Et voilà, enfin, tout le truc habituel. Mais Mais quand le politique se mêle d'un truc, de toute façon, ça peut pas bien se passer. Et là, tu vois qu'il y a un côté, il y a un côté JO de Berlin avec Macron. Il veut ses JO. Il veut ses JO pour montrer que c'est sa France. Que c'est, voilà, c'est quand même ça de la gueule. Hein. T'as vu mes JO, t'as vu? Il est malade. Donc, le côté JO de Berlin, à peine maquillé, enfin, le fait de vouloir les mettre dans Paris, tout ce truc-là, voilà, ça rend le truc bancal. Ça rend le truc foireux parce que y a trop de pression politique pour que ça se passe bien.
On a commencé en parlant de toi, je vais finir en parlant de toi. Moi, je le dis alors facilement parce que je ne m'estime pas journaliste, donc moi, je vote plus, mais si je votais gauche, rupture. Je voudrais que l'OTAN soit démantelée, je voudrais que l'Europe soit démantelée aussi. Est-ce que toi, tu affirmes tes positions ou est-ce que tu essayes de garder dans ton travail une présentation, je dirais, le plus objectif et sans mettre des étiquettes comme je viens de le faire. Et si c'est pas le cas, pourquoi politiquement tu
De ma vision néo-marxiste du monde sur la lutte des classes. Voilà, si on veut garder un truc de la gauche, ça va être celle-là, évidemment, sur le fait qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, qui sont des possédants, et des gens qui sont des dépossédés. Et ça change pas. Et cette lecture-là, pour moi, elle est d'actualité. La lutte des classes, on a voulu la cacher, on veut continuer de la cacher, on veut continuer de faire des débats périphériques, mais c'est la centralité de l'injustice. Et donc, je m'en cache pas, mais après, c'est pas mon rôle de dire
C'est
votez
ça.
ça, les gars, votez ci, les gars. Je pense que mon rôle, c'est de dire votez, parce que c'est un droit qui va vous être enlevé, et votez en connaissance de cause. C'est-à-dire, vous savez très bien que c'est un jeu à somme nulle, d'une certaine façon, que c'est un jeu de dupes, et que vous allez choisir d'être naïf pendant un temps. Mais si vous refusez d'être naïf, alors vous changerez pas les choses. Tu parlais de Noam Chomsky, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire, si à un moment, vous n'avez pas l'envie de changer les choses, même si vous savez que ça va être difficile, alors évidemment, ça va pas changer ou ça sera de pire en pire. Donc il faut cette force vitale, il faut, moi, mon choix, c'est le commentaire et le commentaire avec de l'humour. L'humour, l'éclat de rire, c'est un éclat de rire qui peut faire vaciller des pouvoirs. Le Bouffon du Roi, c'est pas rien. Pourquoi on
C'est
s'attaque à
clair.
Guillaume Meurice? Pourquoi on s'attaque aux humoristes? Pourquoi il n'y a plus d'humour dans la société française? Pourquoi c'est
Dieu
difficile
donné.
de faire de l'humour et qu'on n'a que des idiots tristes comme BHL, comme Enthoven, qui sont invités à longueur de plateau, des boursouflures égotiques qui n'ont aucun sens de l'humour? Bah parce que l'humour, il est dangereux pour des gens qui sont aussi nuls, aussi facilement critiquables et dont on peut rire si facilement. Et donc, pour moi, l'humour est une arme. Une arme vraiment, mais forte, absolue. C'est l'éclat de rire qui fait tomber les talibans, c'est l'éclat de rire qui fait tomber les dictatures. Moi, j'ai toujours en tête cette vidéo terrible, quand les talibans reprennent leur pays après le départ des Américains, où tu as un humoriste qui se fait embarquer par les talibans, il se fait taper dans la voiture, et il continue de les traiter d'espèces de bouseux, de tarés, en rigolant, et il se fait tuer quelques heures après. Ce rappeur qui est prisonnier en Iran parce qu'il a osé dire les choses. La liberté de parole, là encore, c'est une des libertés qui est menacée. Dans nos démocraties, c'est là où c'est terrible. Alors qu'elle devrait être, au contraire, encouragée. Et l'humour en fait partie. L'humour, c'est le degré ultime. C'est-à-dire que, bah oui, il n'y a plus de respect. On est Charlie, on n'est pas Charlie. Mais si on est Charlie, on l'est pour tout. Et donc, on respecte rien. Parce que c'est ça l'humour. Il n'y a pas de sacré dans l'humour. Et donc, s'attaquer au sacré, ah là là, oui, c'est pas drôle. Hein. Le sacré, c'est le moment où l'humour ne peut plus exister. Voilà. Et bien, ce moment-là, c'est un moment où l'humanité se perd aussi. L'humanité, c'est à la fois le sacré parce qu'il faut la transcendance, mais c'est aussi l'humour. Et il faut les deux. Et si t'as pas les deux, tu as une humanité malade. Et en ce moment, je trouve que ça va très mal du côté de l'humour. Par contre, du côté du sacré, ça envoie du lourd.
Merci Alexis Poulain, ça résume bien ton travail. Et puis on va te retrouver régulièrement. Si tu passes par les latitudes helvétiques,
Avec.
je te fais à manger la prochaine fois volontiers.
Normalement, ouais, je vais faire mon spectacle normalement à Annecy et puis en Suisse. Je ne sais pas encore
Ah
quand, mais
oui.
c'est en préparation. Ça sera sans doute à la fin de l'année, mais je te tiendrai au
Parle un
courant.
peu de cet autre aspect de ta carrière. Je pense que c'est aussi pour ça. Moi, souvent, j'ai une expression relative, justement, la preuve. Alors que toi, bah, tu as cette capacité rhétorique de faire passer des messages, de nuancer, de vulgariser les autres. Et tu, parce que tu es comédien aussi, c'est ça? Tu as aussi une carrière de comédien.
Wow, enfin, c'est un grand mot. Non, j'ai fait une pièce, enfin, un spectacle documentaire sur Kadhafi et Sarkozy. Et puis là, je fais la revue de presse que je fais tous les matins à distance, en live, sur scène, avec voilà, de l'impro et puis des interactions avec la salle. Voilà, c'est tout. Et puis aussi la musique. Je vais être à Bourges, là, il y a la fête de la musique ce vendredi.
Tu chantes.
Et ben, je suis à Bourges avec mon groupe qui s'appelle The Ices et je fais du rock. Et donc, je vais faire les deux, la revue de presse en live et le concert au Wake Up dans la ville de Bourges. Si vous êtes dans le coin, bah, venez. Voilà. Donc, oui, j'aime bien la scène. J'ai toujours eu une activité soit musicale, soit de comédien, comme tu dis.
Blinken aussi, donc ça fait pas tout, mais tu es un homme aux nombreux talents, merci beaucoup. Et
Merci.
puis au plaisir de te retrouver très prochainement. À bientôt, Alexis.
Avec
Merci à
plaisir.
toutes celles et ceux qui
À
nous ont
bientôt,
suivis.
Antoine.
Record absolu TSBC. Et à la prochaine. Ciao.